RMC, la boîte à souvenirs.
Marie-Zéven GP.
Bonjour à tous, je m'appelle Marie-Zéven GP. Vous m'entendez depuis plus de 10 ans maintenant dans le Super Moscato Show, mais je suis avant tout une mère et une championne de saut en hauteur. 17 fois championne de France, vice-championne d'Europe, 4e des Jeux Olympiques de Los Angeles. Et ensemble, nous allons ouvrir ma boîte à souvenirs.
RMC,
la boîte à souvenirs.
Bonjour à tous, je suis très heureux de vous retrouver pour un nouveau numéro de la boîte à souvenirs, votre émission intimiste sur RMC avec les membres de la Dream Team. Et aujourd'hui, nous sommes donc avec la grande Marie-Zéven GP. Salut Marise.
Salut.
Durant une heure, nous allons ouvrir ensemble ta boîte à souvenirs, se rappeler tes grands moments, tes cicatrices, tes engagements, la championne que tu étais, la femme et consultante que tu es devenue. Ton boulot est très simple. Face à toi, une boîte, plusieurs papiers glissés à l'intérieur et au fil de notre discussion, tu vas pouvoir les tirer au sort. Dessus, un mot, une date, un moment que tu vas évidemment nous raconter. Avant de débuter cette émission, comment tu te sens, Marise ?
Alors jusqu'à il y a peu, j'étais très très bien. Et puis en arrivant dans le studio, tout d'un coup, quelques angoisses à me dire ça va représenter quoi. Une période où c'est vrai que moi j'ai passé la cinquantaine et c'est souvent un moment, tu sais, où tu te poses et tu regardes ta vie quelque part. Et là, en fait, vous me le proposez, tout d'un coup, je me dis je suis pas prête.
T'es pas prête à regarder dans le rétroviseur.
Ouais, c'est un peu ça.
On va débuter tout de suite avec toi, Marise. Tu peux tirer un premier papier dans cette boîte à souvenirs.
Alors, Vercinge et Torix.
Rien à voir avec le film de Moscato et Denis Charvet, rassure-moi.
Ça pourrait être ça. Non, je ne rêve pas de Vincent et Denis toutes les nuits.
C'est ton école ?
C'était mon école à Aubière.
Et tu as 8 ans,
ouais,
à cette époque-là.
Exactement.
Et l'athlète devient une révélation.
Oui, complètement. J'étais donc dans cette école Vercinge et Torix qui existe toujours. Je suis retournée la voir il y a 2 ans et ça m'avait fait tout bizarre. Et j'avais une prof de sport qui s'appelait Madame Jouffre, si je me souviens bien, qui était exceptionnelle, qui était une femme qui nous faisait faire de tout, hein, du basket, des landis, qui est un truc innommable où on était en petite robe et on faisait des mouvements de gymnastique et de l'athlétisme. Et c'est là que j'ai découvert le saut en longueur, le saut en hauteur, des trucs incroyables, et que j'ai eu cette fameuse révélation un jour où il faisait pas très beau et où on devait rentrer parce qu'il allait pleuvoir, et où elle m'avait dit bah, écoute, si tu arrives à passer un mètre, un jour tu seras une championne. Et donc j'ai tenté ce fil, puisqu'à l'époque c'était un fil, jusqu'à ce que je le réussisse, et je me suis dit c'est bon, je vais être une championne. Donc comme projet, j'avais ça.
Cette époque-là, tu sautes en ciseaux, hein. On n'est pas sur du Fosbury.
Je saute en ciseaux, je suis déjà très très grande. J'ai une photo encore dans un des albums de ma mère, parce qu'elle garde évidemment, comme toutes les mères, les petites coupures de journaux, où la photo de classe, il y a plein de petites filles, toutes blanches d'ailleurs, toutes petites aussi, et puis un espèce de grand machin immense, noir, et c'est moi. Donc je suis quand même beaucoup plus grande, ce qui est facilite le saut en ciseaux.
Si tu sautes un mètre, tu seras championne, tu vas réaliser le défi, et évidemment tu vas devenir une championne, et ça on en reparlera dans quelques instants. Quelques années plus tard, tu vas partir à Montpellier.
Oui.
Mais l'athlète, c'est pas une évidence, parce que tu veux aussi être gymnaste.
Alors, oui, ça c'est... En fait, j'adorais tous les sports. Alors évidemment, quand on m'a vu débarquer à Castelnau-le-Lez, puisque d'abord j'étais au collège de Castelnau-le-Lez, avec mes grandes pattes, on m'a dit, toi, basket, direct. On était quatre sœurs métisses, les quatre sœurs, vous allez au basket. Quand on mesure 1m71 à 11 ans, ben, on va au basket. Sauf que moi, effectivement, je voulais être gymnaste, et que ma star à l'époque, c'était pas... Enfin, j'avais Jesse Owens, évidemment, quand même, dans la tête, et Guy Dru, mais ma star absolue, c'était Nadia Comaneci. Donc j'ai fait effectivement de l'athlétisme, du basket et de la gymnastique au collège, jusqu'à ce qu'un jour la prof me dise, bon écoute, il y a un petit souci, c'est que barre parallèle, les mains sur la barre du haut, barre asymétrique plutôt, les mains sur la barre du haut, moi j'avais les pieds par terre. Donc là on m'a dit, c'est peut-être pas tout à fait ton truc, faut peut-être que tu t'orientes vers autre chose.
Et donc ce sera le saut en hauteur, en tout cas ce sera l'athlète dans un premier temps. Exactement, parce qu'à 17 ans, tu vas évidemment continuer ta progression, ta carrière, et tu vas participer au championnat d'Europe junior. On est en 1981 à Utrecht.
Ouais, pas
et là,
tout à
tu
fait
bats,
17 ans. Ouais.
Et là, tu bats tous les records en heptathlon. C'est-à-dire que souvent, on se dit, Marie, c'est le saut en hauteur. Mais non,
j'ai commencé par les épreuves combinées. Mon épreuve de cœur, ce sont les épreuves combinées. C'est vraiment ce qui m'a fondée, ce qui m'a forgée. J'avais besoin de souffrir. toujours eu besoin de souffrir. C'est comme ça à l'entraînement. Et le son hauteur, je trouvais que c'était facile. C'était pour les faibles, entre guillemets. Donc, j'étais plutôt sur les épreuves combinées avec une très grosse préférence d'ailleurs pour les haies. J'adorais les haies. J'adorais le son en longueur. J'adorais le lancer du poids. J'ai toujours adoré le lancer du poids. J'étais nulle au lancer du javelot et nulle aux 800 mètres. Voilà les épreuves que je détestais. Et donc, je ne réussis pas à me qualifier au championnat d'Europe junior. Donc là, à l'époque, j'étais cadette, moi. Je réussis pas à me qualifier au son hauteur. Je suis complètement désespérée. Et du coup, je tente la qualif en heptathlon et je la réussis. Et pendant cet heptathlon des championnats d'Europe à Utrecht en Hollande, je bats d'abord tous mes records, 7 sur 7 plus le record de points. Mais surtout, je bats le record de France du saut en hauteur, cadette, junior, espoir et pas loin à 1 cm du record senior.
Parce qu'à cette époque-là, tu passes de 1m76 à 1m87.
C'est ça, je bats mon record de 11 cm.
C'est incroyable.
Tout le monde me regarde, ils se disent mais d'où elle sort celle-là? C'est qui celle-là? Même moi, je ne comprends pas, honnêtement. Et ouais. Ma mère était là, mon entraîneur était là, ils avaient fait 3000 bornes dans une vieille bagnole pour venir me voir et c'est un souvenir impérissable.
Exactement, mais à ce moment-là, même après le concours, c'est pas forcément la certitude que tu fasses carrière dans le saut en hauteur, mais
non,
ça, on reverra ça dans quelques instants. Un deuxième papier avec Maryse Evangépé dans ta boîte à souvenirs.
Alors... un record minable.
Ah bah justement.
Alors, bah oui, mais ça c'est... Ouais, c'est un peu l'histoire de ma vie. Ça, je me suis toujours jugée très durement. C'est aussi un peu la faute de mon coach d'ailleurs, parce qu'il ne m'a jamais dit c'est bien, il me disait toujours c'est moins mal.
Dominique Bio,
qui était agrégé de mathématiques, ancien perchiste à Montpellier, au MUC, et qui s'est arrêté relativement tôt parce qu'il avait beaucoup de blessures. Et il m'apprenait à ne pas me satisfaire de moi. Et moi, j'y allais à fond dans ce truc-là, de ne pas me satisfaire de moi. Alors justement, là, je ne sais pas si on parle de la première fois où j'ai franchi 1m90 ou de mon tout premier record de France en salle. Donc ça devait être...
Je vais te rafraîchir la mémoire.
Ouais, il faut m'aider parce
c'est
que...
en 1982. Tu as 18
ah oui,
ans.
C'est ça. Donc 6 mois après les championnats d'Europe junior.
Exactement. Et tu incarnes déjà les espoirs de l'athlète français. On écoute ce petit reportage en 1982. Vous allez voir, c'est saisissant avec Maryse.
Élevons un voile sur la meilleure sauteuse en hauteur française, jolie Montpellier-Rennes, Maryse Evangépé, qui va franchir 1m85 avec beaucoup de légèreté. Elle flirte ensuite avec 1m87. Meilleure performance française, 1m86 par Marie-Christine Debourse. Ce sera pour demain, mais écoutez plutôt Maryse.
Encore 18 ans.
Vous me paraissez être un espoir intéressant, alors est-ce qu'on peut mieux vous connaître?
Non.
On va rester discrète?
Je veux rester discrète parce que je pense que dès qu'il y a un athlète en France qui fait une performance, et surtout des athlètes jeunes, on en parle beaucoup trop et c'est très mauvais pour le moral. J'en ai fait l'expérience et vraiment, je ne veux pas recommencer.
C'est toi déjà.
Ouais, avec la voix de Vic dans la boum, de Sophie Marceau dans la boum. Ce qui est très drôle quand je m'écoute, c'est que... À l'époque, j'avais l'impression que j'étais une badass, alors qu'en fait, mon Dieu, mais que j'étais sage, petite fille sage, toute polie et tout. Et effectivement, alors là, pour le coup, c'est pas le premier record de France, mais effectivement, c'est mon premier titre de championne de France senior, alors que j'ai 17 ans tout juste. J'ai eu 17 ans en septembre, donc quelques mois avant. Et donc, on essaye de m'interviewer et c'est... Comment il
faut que tu m'aides ?
C'est Pierre Fulin.
Ouais.
C'est Pierre Fulin. Et donc, il prend un vent.
Il prend un vent
et il s'y attend pas du tout, en fait. Mais c'était pas par prétention, c'est que je me disais mais pourquoi il me tend le micro, c'est nul, il y a des filles qui sautent 2 mètres, le record du monde était déjà au-delà de 2 mètres. Je me disais mais bon, ça va quoi, j'ai fait 1m85, c'est pas mal, mais c'est pas terrible quoi.
Et justement, quelques mois plus tard, donc ce fameux mars 1982, à Milan, tes premiers championnats d'Europe en salle senior, tu vas battre le record de France, tu vas sauter 1m88, ce qui est non pas une consécration, mais déjà, à 18 ans, c'est déjà une sacrée performance. Mais toi, tu vas faire la gueule.
Oui, parce que je trouve que je suis super loin des autres. Quoi. Je suis dixième. Donc, pour moi, c'est pas un résultat. J'étais à la fois contente parce que j'avais battu mon record. Mais ça, c'était la condition sine qua non que Domi, d'ailleurs, avait marqué sur un petit papier. Ça, c'était un truc insupportable qu'il faisait tout le temps. C'est-à-dire qu'il me marquait sur un papier fermé les perfs que j'allais faire, et j'avais le droit de les regarder après. Et je ne supportais pas ça parce que ça me donnait la sensation que c'était pas moi qui le faisais, que c'était lui qui gérait tout, quoi, quelque part. Donc il s'était pas trompé, comme d'habitude. Mais dixième, quoi, dixième. Donc je trouvais ça nul. J'ai réalisé après que c'était bien, parce qu'il y avait quelqu'un que j'admirais beaucoup, qui était celle qui détenait le record de France à l'époque, qui était Marie-Christine Debourse, et qui commentait, qui était la toute première consultante pour TF1. Et c'est elle qui a commenté mon record de France. Donc, elle commentait le record que je venais de lui battre. Et là, c'est vrai que ça m'avait impressionné. Je me suis dit, ah oui, Marie-Christine, c'était quand même quelqu'un et j'ai fait mieux. Donc, j'ai pu relativiser après, mais sur le moment, non.
C'est vrai, tu fais la gueule et comme tu le disais, les autres sautent 2 mètres et toi 1m88. Ouais. Mais tu n'as que 18 ans, mais évidemment...
Même pas. Je viens d'avoir 17 ans.
Incroyable. Incroyable. En tout cas, Mars 82, on peut le dire ou pas, c'est quand même le tournant pour le saut en hauteur. C'est à ce moment-là où tu te dis je vais me lancer là-dedans.
Alors oui, parce que encore une fois j'avais pris une claque et que je me suis dit non mais pas question quoi. Il faut que je me rapproche absolument, je peux pas en rester là. Et puis je me suis rendu compte que c'était quand même dans cette épreuve que j'avais le plus de chances d'atteindre le niveau international et le fameux projet de mes 8 ans, à savoir devenir une championne. Et comme dans ma tête être championne de France c'était pas être une championne. Je me suis dit, si je veux aller taper les meilleurs, il faut que je reste sur cette discipline-là, oui. Mais ça ne m'empêchait pas de continuer à m'entraîner comme une heptathlète et de faire au moins un heptathlon par an pour le plaisir, on va dire.
Nous sommes avec Maryse Evangépé dans sa boîte à souvenirs sur RMC. Maryse, je te préviens, il y aura des surprises dans cette émission. Tu vas pouvoir piocher un nouveau papier dans cette boîte.
Rémi.
Qu'est-ce que tu lis ?
Tu n'iras jamais à Atlanta.
Tu n'iras jamais à Atlanta. On va faire un petit saut de puce, tu te souviens?
Ah ouais, c'est un gros saut de puce là. On arrive sur la fin de ma carrière.
Exactement, on est en 1996. Est-ce que tu te souviens qui te dit ça?
Ouais.
Tu n'iras jamais à Atlanta.
Ouais, j'en ai vachement voulu. Enfin, j'en ai voulu, mais il ne me l'a pas dit directement. Quelque part, il l'a dit à mon mari. Ce qui était pire, c'est Charles Biétry.
C'est Charles Biétry qui est, à l'époque, directeur des sports de Canal+.
Exactement.
Et pourquoi il te dit ça? Pourquoi il te dit tu n'iras jamais à Atlanta?
Parce qu'il veut me recruter dans l'équipe de Canal+, qu'il a décidé que ça serait moi, au micro en bas, à la mix zone. Et que donc, il a confié une mission à mon mari, qui n'est pas simple, hein, parce que je ne suis pas facile quand même comme épouse. Hein. Il lui a confié le soin de me recruter donc pour Canal, puisque lui travaille déjà et est déjà consultant pour Canal+, et de lui dire, bah, écoute, qu'elle laisse tomber, de toute façon, elle n'arrivera jamais à se qualifier. Elle ne s'est pas qualifiée à Barcelone 4 ans avant, elle n'arrivera pas à se qualifier à Atlanta. Et ça a valu une engueulade, une de plus, le pauvre magistral à Marc. Je lui dis, mais ça va pas, tu sais comment je m'entraîne, tu sais comment c'est dur, tu sais à quel point j'en n'est-ce pas pour y arriver. Et toi, tu me dis que je vais pas y arriver. Il me dit, mais c'est pas moi, c'est Charles, il faut que tu prennes ta décision maintenant. Parce qu'en fait, Charles ne voulait pas attendre le mois de juin. Et là, je dis, bah tant pis, non, c'est hors de question. Moi, je vais tenter jusqu'au bout d'avoir ma sélection. Et Charles, effectivement, n'a pas tout à fait tort, puisque une fois de plus, j'échoue à 1 ou 2 centimètres.
Alors,
à me qualifier. Enfin, une fois de plus.
En 92, tu échoues pour 1 centimètre à la qualification. En 96, évidemment, tu as le temps de dernier moment, parce que la période qualificative court jusqu'au mois de juin, juste avant les JO d'Atlanta au mois d'août.
Oui.
Et là, pareil, tu ne te qualifies pas pour 1 centimètre. Et ça marque, c'est vrai, l'arrêt de ta carrière.
Ça a été une claque. Je me suis dit immédiatement... Non, tu t'entraînes pas 2 fois par jour, 5 fois, 6 fois par semaine pour faire un 18e titre de championne de France, puisque j'étais déjà 17 fois championne de France, et pour faire une énième Coupe d'Europe, c'est pas possible. On peut pas souffrir comme ça à l'entraînement, avoir un seul objectif, souffrir même psychologiquement pour ça. Et donc, il se trouve que Charles revient vers moi en disant « Coucou, finalement, je t'ai gardé une place ». Et donc, j'embraye, mais directement, c'est-à-dire que je monte dans l'avion pour Atlanta, mais en tant que journaliste qui va faire les interviews en bas à la Mixon.
On en parlera tout à l'heure. Tu as connu Los Angeles 84, tu as connu Séoul 88. Découvrir ces Jeux Olympiques avec une autre étiquette, un autre costume, ça te fait quoi?
Alors sur le moment, c'est fantastique parce que, bon, d'abord, Charles est un manager hors pair. Enfin, moi, je le considérais comme un entraîneur, en fait. Hein. Donc, il n'a pas bonne réputation à l'époque. D'ailleurs, il y en a pas mal. Ça m'a fait rire parce que ça m'a fait penser à certains coachs de l'équipe de France qui, dans son dos, le traitent de tous les noms. Mais en fait, c'est un type qui est exceptionnel, qui tire le meilleur de tout le monde. C'est-à-dire qu'il est capable de passer un savon à la coiffeuse ou à la maquilleuse, mais pas pour passer un savon à la coiffeuse ou à la maquilleuse, mais parce que le travail est mal fait et qu'il y en a un qui est orange sur le plateau, par exemple. Et là, on a une expérience de dingue. C'est la grande époque de Canal+. Il y a un studio de plus de 300 mètres carrés qui est construit à Atlanta. Toutes les équipes sont délocalisées. Il y a des émissions exceptionnelles comme Georgia, par exemple, celle que Charles anime lui-même, dans lequel il reçoit des gens incroyables, des gens dont j'aurais jamais pu penser les côtoyer un jour, des Ray Charles, des gens comme ça. Et on bosse 22 heures sur 24. Il nous prévient. D'entrée de jeu, il nous dit, je vous préviens. Il nous dit 2 choses que j'ai trouvées fantastique en fait, et qui pouvait justifier le fait qu'il m'engueule, même si je répondais, mais bon. C'était d'abord, il nous a dit, je vous préviens, les techniciens sont mieux payés que vous. Parce que eux, ils vont taffer non-stop, qui dorment dans le studio, qui verront rien des compètes. Donc ils sont mieux payés que vous. Et la deuxième chose, c'était, vous allez bosser comme des malades, mais on va faire une télé de fou. Voilà. Et effectivement, il y avait des lits de camp même sous les pieds des commentateurs. Et d'ailleurs, ça nous a fait des vannes pas possibles. Je me souviens d'une fois où Charles était en train de faire son émission et tout d'un coup, on entend un ronflement à l'antenne terrible. Et c'est parce qu'il y avait un des journalistes qui était couché sous ses pieds et qui pionçait complètement sous ses pieds.
Alors, ça va être une aventure, et tu le dis, exceptionnelle, les JO d'Atlanta, sauf un jour. C'est le jour de la finale du saut en hauteur.
Ouais. Oui, ouais, ce jour-là, ça a été... c'est le jour où j'ai réalisé que j'avais fini ma carrière. C'est-à-dire que les filles rentrent sur le terrain. Donc déjà, je n'étais pas en grosse forme. Je commence à pleurer. Je suis une grosse pleureuse, moi. Je pleure quand je suis contente, quand je suis triste, quand je suis en colère, je pleure beaucoup. Donc je commençais à pleurer. Je regarde la finale, je regarde tous ces concours. Alors c'est un concours qui est exceptionnel, hein, qui va très très haut. Mais je savais qu'avec mes performances, j'avais ma place dans cette finale. Et oui, c'est un moment qui, pendant un quart d'heure, je peux plus faire d'interview, je peux plus parler, je suis détruite, quoi, complètement.
On va piocher un nouveau papier avec toi, Marie-Zévan-Gépé, et se rappeler évidemment ta carrière de championne. On a parlé de la première fois en tant que consultante, mais évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à raconter.
9 et 10 août 1984. Je ne connaissais même pas la date, mais je suppose que c'est ce sont les qualifs et la finale des Jeux Olympiques 84.
Exactement, à Los Angeles. Alors, avant de parler du concours et de ces deux dates, le 9 et 10 août, tu découvres les Jeux Olympiques, mais... mais pas très bien.
Non.
Parce que tu arrives tard à Los Angeles.
Ouais.
Pourquoi?
Ouais. Alors, c'est mon entraîneur, donc Domi, avait décidé de m'envoyer tardivement parce qu'il me connaissait, qu'il savait que j'étais influençable, impressionnable et qu'il avait peur que je me noie dans les fastes de Los Angeles.
Tu as 20 ans, hein, je le rappelle.
Ouais. Même pas encore, toujours.
Même
j'y
pas
tiens.
Encore.
J'y tiens. 4 septembre, j'allais avoir
quasiment
20 ans.
Quasiment 20 ans.
Voilà. Donc, il se dit, si jamais elle part à Los Angeles, c'est fini, on la perd. Quoi. Entre Disney, la bouffe, etc. Surtout, j'avais toujours eu des problèmes de poids. Moi, j'ai toujours eu du mal pour rester au poids quand j'étais athlète, à des régimes incroyables. Donc, il décide de me faire partir quelques jours avant les qualifications du saut en hauteur, contre l'avis général et notamment contre l'avis de la Fédération française d'athlétisme, qui à l'époque n'imposait pas le fait que tout le monde parte 3 semaines avant et qui pouvait difficilement l'imposer, puisqu'à l'époque, les entraîneurs personnels n'étaient pas conviés, n'étaient pas invités auprès des athlètes sélectionnés aux Jeux. Donc, lui, il a dit, moi, il faut qu'elle reste à Montpellier, qu'elle s'entraîne avec moi. Donc, il m'avait décalé mes horaires d'entraînement pour essayer d'être sur le décalage horaire de Los Angeles. Donc chaque jour, on faisait une heure de plus pour arriver à l'horaire de Los Angeles. Et donc, j'ai vu la cérémonie d'ouverture des Jeux depuis une compète où je devais me tester parce que je m'étais fait mal avant. Je ressemblais à Ramsès. J'avais une entorse, j'avais un problème de sciatique, j'avais un problème de dos. Enfin, j'étais strappée de la tête aux pieds. Et donc, j'avais fait un petit match, un match avec des juniors du côté de, je ne sais même plus où c'était, Strasbourg ou Haguenau, je ne sais plus exactement. Et le soir, à la télé, on regarde donc la cérémonie. J'ai pleuré toute la nuit. Toute la nuit. Je me disais, mais comment il peut me priver d'un truc pareil? Donc effectivement, ça n'a pas très bien commencé.
Et finalement, c'était quand même une belle opération de la part de ton entraîneur. Tu vas arriver 3 jours avant les qualifications, le 9 août donc 1984. Et le jour du concours, tu te balades, Maryse?
Je me balade. On est 40 qualifiés. Je passe tout au premier essai. Je finis première des qualifications. J'ai l'impression de voler. Je ne sais pas ce qui se passe, en fait. Je suis sur une autre planète. Tout me paraît génial. C'est-à-dire que je n'ai à aucun moment l'impression d'être aux Jeux Olympiques. J'ai tout le temps l'impression d'être clairement à Disneyland.
Et puis, tu es dans un stade magnifique aux Jeux Olympiques. Tu n'as donc pas 20 ans bientôt, mais tu n'as pas 20 ans, 19 ans. Tu termines première des qualifications,
ouais.
Et là, te voilà en finale.
Et me voilà en finale, toujours strappée de la tête aux pieds. Hein, alors du coup, je cachais certains de mes bandages parce que je trouvais que ça m'affaiblissait vis-à-vis de mes adversaires. Donc, je mettais des très grandes chaussettes jusqu'aux genoux. Comme ça, au moins, on ne voyait pas que j'en avais aussi plein sur les mollets et sur les chevilles. Et j'arrive en finale. Je suis avec mes deux plus grandes stars, les femmes que j'admire le plus au son hauteur, qui sont Ulrike Meifert et Sarah Simeoni. Ce sont mes deux idoles, sont celles dont j'ai les photos dans ma chambre. J'ai collé une barre avec le record du monde sur le mur en me disant « il faudra que je fasse ça pour les battre ». Et Ulrike Meifert arrive au JO avec une perf moyenne. Elle arrive, elle était qualifiée avec moins d'1m90 si je me souviens bien. Sarah n'avait pas sauté très haut non plus. Et je me dis, bon, il faut que je tape ces deux filles-là. Et le début du concours se passe merveilleusement bien. Je bats toutes mes adversaires une par une. Alors, j'ai toujours une tactique. C'est-à-dire que je note sur un papier toutes les filles que je dois éliminer à la première barre, à la deuxième barre. Et ça se passe bien. Donc, effectivement, elle est éliminée. Elle aussi. Puis l'Australienne, puis la Canadienne. Debbie Brill, une très grosse adversaire qui avait eu le record du monde un temps avec 1m99. Et puis, j'arrive à un moment donné. Je passe tout au premier essai, exactement comme en qualification.
C'est pour ça que tu es première.
Exactement, donc 1m80, 85, 90, 94 au premier essai et un boulevard au-dessus surtout. Et à 1m97, tout à coup, j'entends le speaker qui dit en anglais, malheureusement je parlais très bien anglais, qui dit en anglais la Frenchie Marie-Zéven GP qui, si elle franchit cette barre, bat le record de France et sera première. Et c'est la première fois en fait que je réalise que je suis première et que je suis sur le point de peut-être gagner les Jeux Olympiques. Et en l'espace de 2 minutes, tout se dérègle. Parce que le saut en hauteur, c'est comme ça. C'est-à-dire, et le saut en hauteur, le tennis, j'imagine que ma tête a vrillé complètement. Tout d'un coup, je ne suis plus dans « je m'éclate, je suis au JO, je vais toutes les battre », c'est « oh putain, je suis première ». Et le temps que je réalise ça, je suis déjà au troisième essai. Je loupe de peu 1m97, et là, une illustre inconnue qui n'avait pas sauté plus d'1m88 dans sa carrière, en tout cas cette année-là. Johnny Huntley, l'américaine, franchit 1m97 et donc médaille de bronze. Et je suis quatrième avec ma putain de médaille en chocolat.
Dominique Biot, ton entraîneur sur le concours, il s'en souvient très bien évidemment, on l'écoute.
Je me souviens de ce concours, je me rappelle surtout qu'au tableau d'affichage dans le stade de Los Angeles, on a marqué, alors on met les concurrents, je ne sais pas dans quel ordre, mais elle était marquée première. Après 1,94. Et c'est à 1,97 qu'elle est passée quatrième. Voilà. Je pense qu'il y a des athlètes qui ont gagné qui n'auraient peut-être pas dû être là.
Ah putain. C'est dingue parce que ça fait 20 ans, 30 ans, 40 ans, 36 ans. Et c'est toujours la même émotion. Et il m'arrive encore d'en rêver. Il m'arrive encore de voir cette putain de barre et ce tableau, parce qu'effectivement, le tableau d'affichage, il était face à nous. C'était la première fois qu'on avait, dans une grande compétition, le sautoir qui était non pas à l'intérieur de la piste et on partait contre les spectateurs. Là, c'était l'inverse. On partait sur la pelouse et on allait vers les spectateurs et vers le sautoir qui était... le stade était immense et c'était intérieur piste. Et donc, on voyait le tableau d'affichage. Et je me souviens que je le regarde... tableau, je le regarde et je vois mon nom, je vois Marie-Zéven GP, je vois deuxième Sarah Simeoni, Ulrike Meyfarth, je crois qu'elles étaient ex-aequo. Et oui, c'est un truc de dingue, c'est un truc de dingue.
C'est donc ton idole Ulrike Meyfarth qui va remporter la médaille d'or en battant d'ailleurs ce jour-là le record du monde, oui. 2m02.
Ulrike Meyfarth, her first attempt at 202.
Oh, and she goes clear! Now that could be the gold medal. What a remarkable comeback again! Sarah Simeoni was so close. This girl, Ulrike Meyfarth, goes clear at her first attempt at 6.75, 2.0.
Alors, si ouais. Tu n'avais pas les pattes peut-être pour le 2m02, en tout cas pour la médaille, oui.
Oui, oui, j'avais les pattes pour la médaille. Non, j'avais pas les pattes pour... Encore que, quand je revois aujourd'hui, parce que je les ai, les images du concours, ça m'hallucine, en fait. C'est-à-dire que
La marge
est énorme. Ça ne m'arrivait que deux fois dans ma carrière d'avoir une telle marge sur un concours et d'avoir l'impression de voler. Ça a été les fameux championnats d'Europe junior où je bats mon record de 11 cm. Et cette fois-là, où j'avais l'impression qu'il n'y avait aucune difficulté, c'est comme si j'avais un tremplin sous le pied.
Je voudrais revenir sur cette quatrième place, parce qu'évidemment, tu montes en tribune. Tu réalises à ce moment-là vraiment que tu es quatrième. Il se passe quoi, Maryse ?
Il se passe que... Alors, j'ai jamais été une athlète très sympa avec les journalistes. Hein. C'est marrant que j'ai voulu faire ce métier derrière, parce que j'aimais pas parler, donc en mix zone, je parlais pas, notamment quand je perdais, il était hors de question, c'était même pas la peine qu'on m'approche, c'était dangereux, on va dire. Mais dans les tribunes se trouve quelqu'un que j'apprécie beaucoup, qui est Jean-Michel Bello, qui est l'ancien perchiste, très très grand perchiste, très grand champion.
Commentateur à ce moment-là pour Antenne 2.
Voilà, qui est devenu commentateur. Et qui m'appelle, qui me dit est-ce que tu veux bien monter en tribune pour faire une interview, et je m'assois à côté de lui, on commence à parler, on n'était pas à l'antenne, hein, on commence à parler entre nous, et là tout d'un coup il y a la cérémonie protocolaire du 100 hauteur, et donc je m'arrête pour regarder cette cérémonie, donc on est sous le gros panneau avec les noms et sous le protocole, et tout d'un coup j'entends première Ulrike Meyfarth, deuxième Sarah Simeoni, troisième Johnny Huntley, et je regarde ce tableau, je vois les trois noms, je vois le quatrième qui s'affiche, donc le mien, et je réalise que c'est un nom qui sera jamais prononcé, que ça vaut rien. Et là j'éclate en sanglots et j'étais mais inconsolable.
On va l'écouter d'ailleurs, Jean-Michel Bello, il s'en souvient très bien de ce mot.
Ah oui.
Je comprends quand elle me regarde, je comprends qu'elle comprend. Elle sait très bien qui je suis, elle sait très bien à qui elle parle, parce qu'on a vécu le même type de douche froide, de déconvenue. Il est sans doute plus spontané pour elle de trouver réconfort dans les yeux d'une personne qui a vécu ce type de situation que dans une personne lambda qui, effectivement, ne va se contenter de dire « mais t'inquiète pas, c'est pas grave, la vie continue, la Terre ne s'arrête pas de tourner, effectivement ». Bon, tout ça sont des mots qu'on utilise tous, mais qu'est-ce que l'on fait dans ces cas-là? On réconforte les gens, c'est quelqu'un qui vient de rater un examen, c'est quelqu'un qui vient de rater un concours, c'est quelqu'un qui trouvait les mots justes au bon moment, il n'y en a pas, bien évidemment, puisque ça fait des années qu'on se prépare à ce genre d'épreuve.
Ouais, il l'a très bien dit, et d'ailleurs il ne m'a pas dit « t'inquiète pas, il y en aura d'autres », parce qu'il sait très bien que ce n'est surtout pas ce qu'il faut dire à ce moment-là. Il m'a juste pris dans ses bras, il m'a laissé chialer quoi, comme une môme, comme la gamine que j'étais. Mais c'est vraiment, si j'ai un conseil à donner, d'ailleurs ne dites jamais ça à quelqu'un qui vient de se planter, parce que non, il n'y en aura pas d'autres. C'est, quand on laisse passer son moment, on le laisse passer, tout simplement. Et moi j'ai laissé passer mon moment, et je le savais.
Tes enfants ont regardé ce concours?
Non.
Tu en as quatre?
Oui. Pendant très longtemps, ils n'ont pas su que je faisais du saut hauteur. Hein. Très, très, très longtemps. Ils ne savaient même pas que je faisais de l'athlétisme. Un jour, mon fils, je ne sais plus si c'est mon fils ou c'est ma troisième fille qui est rentrée de l'école en me disant « C'est vrai, maman, que tu étais une championne ?» Et là, je me suis dit « Bon, ok, va peut-être falloir que je leur parle un petit peu. » Mais comme je n'étais pas du tout fétichiste, que je n'avais pas de médaille à la maison, pas de trophée, et que c'est ma mère qui faisait toutes les coupures de journaux, non, pendant très longtemps, j'étais juste maman. Quoi.
Elle a quel âge, Maya ?
Maya, ma troisième, a 21 ans.
21 ans, oui. Bon, elle n'était pas née, hein, forcément, en 84, mais...
Non, elle n'était même pas en projet encore.
Mais voilà ce qu'elle retient de Maryse, la championne d'athlète.
Pour moi, la maman athlète que je vois, elle m'impressionne, j'ai l'impression elle est invincible. Elle a toujours gardé ce côté invincible, même après sa carrière d'athlète, mais pour moi, c'est vraiment ce que je vois, c'est-à-dire qu'elle était inarrêtable. Donc pour moi, c'est vraiment, ça fait, je ne sais pas, c'est invincible. Les mots que j'ai pour elle, c'est warrior, donc...
Alors là, comment dire? Ben voilà, c'est bon, on a ouvert les vannes. Ça me touche beaucoup parce que c'est pendant très 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 longtemps, c'est pas du tout l'image que j'ai eue de moi. Et très longtemps, jusqu'à il y a même pas une dizaine d'années. Et je dirais que cette image de warrior, ce sont mes enfants qui me la renvoient. Et Maya, mais aussi Tania, Mélissa, Mika, me le disent sans cesse. C'est-à-dire que je sens qu'ils sentent que j'ai encore, à 56 piges, besoin d'être rassurée là-dessus. Et ben, je crois que c'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire. De me dire que je suis une warrior, que je suis une battante et que je lâche jamais, c'est sûrement le plus beau compliment parce que pendant ma carrière, j'ai eu l'impression, au contraire, d'être mais vraiment mauvaise. Quoi, en fait. J'ai toujours eu la sensation de me planter.
Ouais, tu as une image très négative sur ta carrière. Ouais, il faut le dire, hein, ouais. Tous les auditeurs
c'est,
qui nous
c'est
écoutent.
Très, hein. C'est très vraiment. Curieux, même maintenant avec du recul. Justement, aujourd'hui, j'entraîne des jeunes athlètes, j'entraîne ma propre fille.
Maya, exactement.
Et je vois, et j'ai entraîné mon autre fille, Tania, qui maintenant est partie dans la restauration, donc dans un autre milieu très compétitif. Je me rends compte à quel point ils souffrent, tous ces jeunes, pour arriver à décrocher une sélection au championnat de France, pour arriver à décrocher une finale au championnat de France, pour arriver à décrocher un podium. Moi, j'ai été 17 fois championne de France et je me disais que c'était vraiment pas bon.
Maya, justement, que tu entraînes, on lui a demandé si c'était facile d'être la fille de Maryse Evangépé.
C'est vachement dur, surtout quand tu es petite, parce que tu sais que les gens s'attendent à ce que tu sois aussi bien que tes parents. Et même les commentaires, c'est-à-dire que c'est arrivé qu'un commentateur, pendant un de mes 400 mètres, commente, et je l'ai entendu dans ma course, c'est-à-dire qu'il commente « Maya, la fille de Maryse Evangépé et Marc Maury, qui mène la course. » Et il se trouve que pile à ce moment-là, je me fais dépasser par une fille derrière, et il dit « Ah ben non !» Donc c'est un tout, en fait. C'est moi qui, ça a été ma décision de faire d'athlète, c'est vraiment là, pour le coup, on ne pourra jamais m'en sortir, j'adore ça. Mais c'est clair que des fois, c'est un peu de pression.
Elle est courageuse. Elle est super courageuse parce qu'effectivement, on n'arrête pas de la comparer. Puis alors, le truc que je déteste le plus, c'est « Ah, les chiens font pas des chats !» Mais bon Dieu, j'aurais jamais été capable de faire un 400. Un 400 ou un 400 mètres. Un 400 mètres, si j'en ai fait un et j'avais battu le record du Languedoc. Mais c'est super dur. Le 800, Maya, elle court le 800, moins de 2,19. J'étais une pompe au 800. Enfin, quand je faisais 2,32, j'étais au taquet complet. Donc non, ça n'a rien à voir avec les chiens ou les chats. Ça a à voir avec le travail. Elle travaille super dur, ma petite Maya. Vraiment.
Maryse Evangépé dans la boîte à souvenirs sur RMC. Un nouveau papier, un nouvel épisode de ta vie maintenant.
Seul au monde.
Seul au monde.
Alors, à part Wilson, je ne vois pas, à part le ballon et le seul au monde.
On va parler d'une période très délicate dans ta vie. Tu as arrêté donc ta carrière, on en a parlé en 1996. Mais la dépression de fin de carrière, tu vas la connaître un peu plus tard. Ah. Tu vas la connaître des années plus tard, même au début des années 2000, 5-6 ans plus tard, cette dépression.
Ouais. Alors oui, effectivement, comme beaucoup de sportifs, on est pris. Moi, j'ai commencé donc à 8 ans, j'étais en équipe de France à 15 et je m'arrête à 32, enceinte de ma deuxième fille. Et je me dis que tout va bien, j'ai le plus beau mari du monde, j'ai deux enfants magnifiques, je travaille, tout va très bien. Donc, et je ne me suis jamais arrêtée d'ailleurs parce que je viens d'une famille modeste, pas pauvre mais modeste. Et donc il n'était pas question de faire que de l'athlétisme à une époque où on ne gagnait rien avec l'athlétisme. Donc j'ai toujours travaillé, toujours fait des études et toujours travaillé. J'ai fait le CFJ, donc le centre de formation des journalistes par le biais de l'INSEP, par Sportcom. Et donc, je suis diplômée, mais je ne m'en sers pas. Je ne m'en sers pas tout simplement parce que c'est un accord avec mon époux. J'ai un boulot qui, à l'époque, est plus alimentaire, on va dire, pendant que lui court le monde. Et puis, ça va bouger à un moment donné. Et au moment où, effectivement, je décide que ça doit bouger, bah, ça ne se passe pas exactement comme la vie le voudrait. C'est le moment aussi où notre relation avec Marc devient de plus en plus tendue. Et alors que je reprends des études, donc je passe un DESS de management du sport pour sortir un peu de la fonction publique dans laquelle je travaille depuis des années, pour me remettre sur quelque chose de plus privé, des projets personnels, eh bien, il y a un divorce qui arrive tout simplement. Et je me retrouve divorcée avec 4 enfants de 1 an et demi à 11 ans. Ma grande Mélissa de 11 ans qui a une maladie orpheline, qui a des opérations à faire, un passage un peu compliqué. Et là, tout d'un coup, je prends dans la tronche, mais vraiment dans la tronche, mais t'es qui ? T'es quoi ? En fait, t'es devenue quoi ? T'étais pas bonne en athlétisme, t'as jamais été championne du monde, t'as un boulot qui te plaît pas plus que ça, tu le fais parce que t'es habituée à remplir le frigo et qu'on t'a dit qu'il faut jamais s'arrêter de travailler. J'ai des valeurs qui me sont héritées de mon grand-père, de ma mère, où il faut travailler, il faut être sérieux au boulot. Et en fait, je prends tout ça dans la tronche à ce moment-là, la fameuse crise de la quarantaine, j'ai 38 ans, et je vais super mal. Et je vais super, super mal. J'ai pris 30 kilos à ma dernière grossesse. J'ai une période de chômage parce que je quitte la ville de Noisy-le-Grand où j'étais directrice des sports, enfin responsable du service des sports. Je démissionne pas parce que sinon j'avais pas de chômage, mais je vais voir le maire en lui demandant de bien vouloir mettre fin à mon contrat parce que j'en peux plus. Et là, je me retrouve très bas, donc à l'hôpital. Ma mère ne l'a pas su, mais mon entourage moins fragile, on va dire, l'a su.
Pourquoi à l'hôpital ? Tu veux nous
parce
en parler
que,
ou pas ?
Parce que je tente de mettre fin à mes jours, voilà, tout simplement. Et mes enfants l'ont su parce que je leur ai dit après, mais pas à ce moment-là. Et en fait, ce qui se passe, c'est que je n'y arrive pas. C'est-à-dire que je tente de me couper les veines et puis je m'aime un peu trop. Ça fait mal. Donc après, je prends un tas de cachets. Puis à un moment donné, ça fait tellement mal. J'étais devenue alcoolique aussi à ce moment-là. Et ça fait tellement mal que une énième nuit où je ne dors pas. Je vais dans la salle de bain, j'ai ces lames de rasoir. Et comme je n'arrive pas à me faire du mal, je me rase la tête. Parce qu'il fallait que je fasse un truc. Et puis après, je m'écroule, ivre morte, tout simplement. Et le matin, c'est ma fille Tania qui me trouve, en fait. Elle est petite, elle est très petite. Et elle arrive dans la salle de bain et elle me voit assommée dans la salle de bain. Enfin, là, c'est pas le jour où j'ai tenté de me suicider, d'ailleurs, ça, c'était quelques jours avant. Et elle s'en va en courant et elle dit à ses sœurs, elle dit, venez voir, maman a des poux. Et elle pense que je me suis rasé la tête parce que j'ai des poux. Ouais. Donc je reste sur ce mensonge-là. Et quelques jours plus tard, en fait, quand je reprends des médicaments, en fait, je suivais une psychothérapie. Je pensais que j'allais mieux et je fais la connerie qu'il faut pas faire. J'arrête les médicaments que m'avait donné ma psychothérapeute. Je les arrête brutalement. J'arrête de la voir. Je continue de boire et je me retrouve effectivement dans le coltard et à l'hôpital.
Il va quand même se passer quelque chose à l'hôpital parce que ça va être enfin le bon moment. Ouais. Deux choses, on va dire, merveilleuses pour toi.
Alors en fait, déjà quand j'ouvre les yeux, donc on m'a fait un lavage d'estomac en fait, j'ouvre les yeux, il y a une psychologue qui vient me voir et qui me dit « Mais enfin, Madame Évangépée, pourquoi vous avez voulu mettre fin à vos jours ? Vous êtes jeune, vous êtes belle. » J'ai dit « Oui, oui, je sais. » Elle me dit « Non, mais vous avez des enfants, vous avez 4 enfants. » J'ai dit « Oui, oui, je sais. » Et en fait, chaque fois qu'elle me parle et qu'elle me dit, je lui dis non, mais je sais. Elle me dit non, mais attendez, il faut vraiment qu'on parle. Je lui dis non, mais vous inquiétez pas, ça ne m'arrivera plus jamais. Plus jamais. Et elle me dit, vous êtes sûre ? Je lui dis non, ça ne m'arrivera plus jamais. Je ne sais même pas pourquoi j'ai fait ça. Je n'ai pas le droit, en fait. J'ai 4 enfants, donc je n'ai pas le droit. Et ce jour-là, c'est quelque part la championne qui refait surface. Et je suis absolument sûre de moi. Donc je demande, je signe donc une décharge pour sortir de l'hôpital parce qu'elle n'était pas d'accord pour que je sorte. Parce qu'elle pensait que j'étais fragile. Moi, je sais ce jour-là que plus jamais j'attendrai à mes jours, mais je sais aussi que j'ai besoin d'aide. Donc il se passe 2 choses. La première chose, c'est que je sors. Et j'appelle mes amis proches auxquels je n'avais pas dit que j'allais mal. Donc j'appelle Odile Le Sage, qui est la femme de Stéphane Diagana. J'appelle Pierre Quinon, qui était mon meilleur ami, qui depuis s'est suicidé parce que lui aussi il allait mal. J'appelle un certain nombre d'autres amis. J'appelle Eric Nevos, qui est juste un mec extraordinaire. Et je leur dis, je vais mal, il faut m'aider. Et de ce jour-là, eux, tous les jours, il y en a un qui m'appelle. Tous les jours, il y en a un qui prend des nouvelles, qui me demande comment ça va, etc. Et là, l'autre miracle, c'est que quand je sors de l'hôpital, j'ai les mains bandées, je rentre chez moi et je reçois un coup de fil. Et ce coup de fil, il est assez incroyable. En fait, c'est le coup de fil d'un homme que j'ai aimé par-dessus tout, en dehors du père de mes enfants, que j'ai aussi aimé énormément, immensément. Et cet homme-là, on ne s'est pas vu depuis des années, depuis que je suis mariée, parce qu'il m'avait dit, il était perchiste d'un autre pays, et il m'avait dit, on restera, on s'aimait follement, mais on avait décidé de rompre, tout simplement parce que moi, je savais que ma vie n'était pas en Suède, et je n'avais pas envie de vivre en Suède et d'aller en Suède, et lui n'avait pas envie de venir en France. Et en fait, quand on se sépare, il me dit, tu resteras toujours ma maîtresse cachée. Je lui dis, ah non, je lui dis ça c'est pas moi. Je lui dis, à partir du jour où je serai mariée, tu n'existes plus. Et quelques temps après, je me suis mariée. Et effectivement, il ne s'est absolument rien passé, donc pendant près de 20 ans. Et le jour où je sors, je reçois un coup de fil donc, de cet homme qui me dit, tu te souviens de moi ? Je lui dis, bien sûr.
Un peu.
Et il me dit, ça te dirait de partir une semaine avec moi en Italie. Voilà. Et là, je me dis, puis merde. Et donc, je pars en Italie une semaine. Il se passe ce qui doit se passer. Hein. C'est-à-dire qu'on reprend exactement là où on s'était arrêté, avec le même amour, la même folie. Et on passe une semaine joyeuse.
Et quand tu sors de l'hôpital, tu as ce coup de fil, donc, de cet ex.
Ouais.
Mais tu as aussi un autre coup de fil. François Pesenti.
Ah, c'était pas le même jour. Mais en fait, tout s'aligne à ce moment-là. En fait, le coup de fil de François Pesenti, c'est juste quand je rentre
d'Italie. Patron d'RMC, évidemment.
Quand je rentre d'Italie. Je reviens d'Italie, donc à l'issue de cette semaine qui, quelque part, m'a fait du bien, tout simplement, et m'a redonné confiance en moi, ma capacité à être une femme, à séduire, à aimer, etc. Et quand je reviens, effectivement, je me sens beaucoup mieux. Alors, il s'est passé aussi entre-temps une petite fête particulière, c'est-à-dire que toutes ses amies proches... on a décidé de faire une grosse fête de séparation. Mes amis étaient aussi les amis de Marc, parce qu'on était très fusionnels. Et donc, je leur dis, écoutez, on fait une soirée pétasse parce que j'en peux plus. Et donc, dans cette soirée pétasse, vous allez dire le plus de bien possible de moi, même si vous ne le pensez pas, et le plus de mal possible de Marc, même si vous ne le pensez pas. Et donc, on se fait notre soirée pétasse. Et le lendemain, effectivement, j'ai un appel de François Pesenti qui me dit, je suis le patron d'RMC, il va y avoir les championnats du monde d'athlétisme à Paris. Est-ce que tu veux devenir ma consultante et venir faire ça avec moi ?
On est donc en 2003, évidemment, François Pesenti ne sait absolument, et il ne connaît pas cette histoire, évidemment, où tu as été à l'hôpital. François Pesenti.
Je ne suis pas au courant de ce qui se passe dans sa vie, et c'est le pur hasard qui fait que je l'appelle à ce moment-là. Et je pense que ça tombait dans un moment important pour elle, dans lequel ce coup de fil-là pouvait aider à la relancer et surtout à renouer le fil d'une carrière dans les médias qui s'était interrompue, qui n'aurait certainement pas dû s'interrompre compte tenu du talent de Maryse. Et je suis très heureux d'avoir été celui qui a permis de renouer ce fil-là finalement, parce qu'encore une fois, il n'aurait jamais dû être distendu.
Tu fais donc les championnats du monde avec RMC en 2003. Et puis très vite, tu veux plus quand même. Hein, parce que pour la première fois, et tu le dis toi-même, pour la première fois, Tu es carriériste.
Exactement. Ça ne m'était jamais arrivé avant, mais tout simplement parce qu'avant... Enfin, le problème de Marie-Zévan-GP, là, c'est que j'ai toujours tout calculé dans ma vie. Toujours. C'est-à-dire que je me disais, bon, je vais faire ça, puis ensuite je ferai des enfants, puis ensuite je ferai comme ça. Et en fait, quand le divorce arrive dans ma vie, déjà, c'est un bouleversement, parce que ce n'était pas prévu. Moi, j'avais prévu d'aimer mon homme jusqu'à la fin de mes jours. Donc là, déjà, ça fout un peu le bazar. Donc ensuite, après, il y a ce retour d'athlétisme qui me manque tellement. Et tout d'un coup, je me dis, mais en fait, on ne peut pas tout calculer dans sa vie. C'est impossible. Il faut, à un moment donné, arriver à lâcher prise pour pouvoir aller vers autre chose. Et alors que jusqu'à présent, quelque part, je m'étais un petit peu sacrifié, c'est-à-dire mes envies, mes rêves, pour simplement réussir quelque chose au niveau familial, là, je me dis, en fait, j'ai envie d'un truc à moi et d'un truc dont j'avais déjà envie quand j'étais enfant. Et je mets un peu les papiers sur la table, je reprends le théâtre. Donc je retourne au théâtre parce que ça faisait partie de mes rêves. Je reprends l'écriture aussi puisque c'est quelque chose qui me tenait à cœur. Et je mets tout ça sur la table et je me dis, mais écrire, je peux le faire. Ça, personne m'en empêche, je peux le faire quand je veux. Faire du théâtre, je peux aussi. Mais journaliste, par contre, là, c'est un projet professionnel. Et donc, je décide de tenir ce projet-là et je harcèle François. Je harcèle François parce que j'ai bien conscience que pour vivre de ce projet-là, il va falloir que je sorte de l'athlétisme. À l'époque, l'athlétisme, c'est 2 mois par an et encore. On fait un petit peu l'été et une ou deux dates l'hiver. Donc, je le harcèle et en même temps, je monte ma propre société d'émissions de radio avec mon meilleur ami Thierry Imberti, qui lui-même est technicien à RMC. Et on produit des émissions de radio dans 17 pays d'Afrique francophone.
Avec José Touré.
Et je produis les émissions, je fais le marketing, j'anime une des 4 émissions qu'on produit qui s'appelle Chez José avec José Touré. Et je pose des CD régulièrement sur le bureau de François pour essayer de lui dire, t'as vu, je sais parler de foot, t'as vu, je sais parler de boxe, t'as vu, je sais animer, t'as vu. Et dans un premier temps, François dit, non, mais attends, c'est bon, toi, t'es consultante athlée, tu fais de l'athlée, etc. Jusqu'aux Jeux Olympiques d'Athènes. Et à Athènes, tout va changer parce qu'on va aux Jeux Olympiques d'Athènes à l'époque avec une petite équipe. RMC, ça faisait pas très longtemps que RMC était de nouveau sur les rails. La Coupe du Monde précédente de football avait donné une belle visibilité, mais on n'avait pas encore tout un staff de consultants, donc on ne pouvait pas en avoir dans toutes les disciplines. Et là, François me dit, dis donc, toi, tu m'embêtes là avec ta boxe, tu veux aller commenter de la boxe? Et je dis, bah ouais, ok, carrément, on y va. Donc du coup, il m'a envoyé à la boxe, il m'a envoyé à la lutte, il m'a envoyé à l'haltérophilie, en gros, un peu les sports où on n'avait pas de consultant et je me suis éclatée. Et à la rentrée, il me dit, bah, si tu veux, de temps en temps, on peut te mettre. Il y avait donc le Moscato Show qui commençait quelques temps après. Hein. Le Moscato Show commençait. Il me dit, bah, si tu veux, on peut te mettre 1 fois, 2 fois par semaine sur cette émission, là, qui est une émission, la fameuse émission Omnisport. Et donc, je rentre sur le Moscato Show. À l'époque, on est une dizaine de consultants.
Exactement.
Et on tourne.
Et on va écouter Adrien Aigouin, qui, à l'époque, est le producteur de cette émission, ouais, au début du Moscato.
Exactement.
On est en 2007.
Les premières, c'était avec tout le monde, parce qu'il y avait beaucoup de monde dans le Super Moscato Show. Les 10 premiers jours, 15 premiers jours, on y avait peut-être entre 15 et 20 consultants. Et au bout de 10 jours, ça prenait pas, c'était pas très bon. Le début du Moscato Show, c'était pas réglé, c'était pas identifié. Et puis tout le monde n'était pas au même niveau. L'exercice est quand même particulier. Et au bout de 10 jours, on a fait une réunion, je me souviens bien, avec François Pesenti, et 2-3 rédacteurs en chef. Moi, j'étais présent, jeune producteur. Et la réunion a duré 10 secondes. On s'est dit, il faut resserrer l'équipe, il faut que ce soit plus identifié. On va resserrer l'équipe avec les meilleurs. Et les meilleurs, ça a duré vraiment 10 secondes. On s'est dit, bah, c'est Marie-Zévan-GP et Eric Dimeco.
Et Jacques Monclar aussi. Il y a eu Jacques Monclar pendant un bon moment. Et effectivement, il y avait encore quelques consultants qui arrivaient. Mais donc, voilà comment, petit à petit, j'élargis mes activités sur RMC, tout en ayant beaucoup plus de place aussi sur la saison athlétisme. Et petit à petit, je fais mon trou.
Ça ne se passe pas toujours très bien, parce qu'il y a même un moment, je crois que tu veux partir, ouais. parce que c'est compliqué.
Ouais. Alors, je ne sais plus exactement à quel moment c'est intervenu, mais il y a eu un moment, et ça m'arrive encore de temps en temps, où la personne que j'étais à la radio, le bon pote quelque part, d'ailleurs Vincent me le disait, il me disait tout le temps, toi t'es un bonhomme, j'étais sympa, mais non quoi. Il y avait un gros décalage en fait avec la femme que j'étais dans ma vie, très maternelle, très enveloppante, très protectrice, etc.
Tu voulais pas être le bonhomme, quoi.
Je voulais pas être le bonhomme. Et il y avait ce gros décalage et je ne me sentais pas dans les blagues potages, dans les on se donne des coups de poing dans l'épaule. J'y étais pas en fait. Donc je réfléchis longuement parce que c'est une période où François m'a embauchée en CDI. Le premier CDI de ma carrière. C'est-à-dire que j'ai toujours travaillé depuis l'âge de 21 ans, mais le premier CDI que j'obtiens, c'est à 47 ans. Donc, ça fait quelques mois que j'ai ce CDI et je démissionne. Et au moment où j'envoie ma démission, je clique sur « je démissionne », j'envoie ma lettre de démission et je me dis « putain, qu'est-ce que t'as fait ?» Et là, j'ai un appel de François qui refuse ma démission et qui me dit « viens, on va bouffer, tu m'expliques ». Et donc, je lui explique ce qui ne va pas, ce qui ne me correspond pas, mes attentes aussi. J'avais envie de plus de choses aussi, de plus de responsabilités. J'avais envie des missions de terrain, j'avais envie de plein de choses. Mais j'avais aussi ce dilemme par rapport au Moscato Show et c'est encore François qui a trouvé la solution.
Les débuts avec Maryse, c'est Vincent Moscato qui en parle.
Ça dépend par période. Tu sais, elle a eu des périodes où je pense qu'elle... Ben, comme nous tous, tu sais, mais bon, elle est seule, c'est la seule nana, hein, attention. qui a fait un sport individuel. Nous, on a fait des sports collectifs. Donc oui, des fois, peut-être qu'elle a eu peut-être un peu... Elle a bataillé peut-être un peu au départ. Elle se disait, est-ce que c'est l'émission où je pourrais peut-être m'éclater ailleurs. On peut tous se poser ce genre de questions.
Et finalement, tu as réussi à trouver ta place.
Mais en fait, oui, parce que c'est François qui a trouvé la solution à nouveau. Il m'a dit, mais sois toi-même. S'il y a des choses qui te choquent, ben, tu leur dis. Et tu vas être, tant pis si tu as un côté maîtresse d'école, mais ça va être à toi de les recadrer, à toi de quelque part faire en sorte que ça ne déborde pas, parce qu'ils sont débordants d'énergie au sens propre, débordants d'humanité aussi. Il y a des fois où ils m'énervent, où je trouve qu'ils en font trop. Il y a eu des périodes où t'en mettais trois dans le studio, notamment quand il y avait encore Jacques, tu mets un Denis, tu mets un Vincent, ou tu mets Jacques, tu mets un Poul Jones, c'est un Vincent, et c'est terminé, c'est une bombe qui explose dans le studio. Et donc là, on te dit recadre, qu'est-ce que tu veux recadrer? Mais c'est impossible. Les débuts, je me souviens du Moscato Show, moi j'avais un Vincent qui me disait, ma poule, tu sais, des fois, je ne suis pas finot, surtout sur les histoires de politique. Si jamais tu sens que je déborde, tu me coupes. Je dis, mais je ne peux pas te couper, c'est ton émission, qu'est-ce que tu veux que je te coupe? Il voulait que je lui coupe le micro. Il me disait, si tu vois que je déborde, tu me coupes le micro. Je ne peux pas, c'est pas possible.
La boîte à souvenirs avec Maryse Evangépé, un nouveau papier dans cette boîte à souvenirs.
On n'en parlera plus jamais. Ouh là là.
On n'en parlera
plus
jamais.
On sort les dossiers.
Tu sais de quoi je parle ?
Ouais, de Dominique.
On est juste avant les Jeux Olympiques de 1984 et tu vas avoir une discussion très franche avec ton entraîneur.
L'illustration Dominique est très drôle.
Quelle est cette discussion ?
On commence à parler du dopage en France, même si moi je ne sais pas trop ce que c'est encore. Je le saurai beaucoup plus en revenant des États-Unis où tout d'un coup ça prend une ampleur en France dans l'athlétisme, où il y a d'ailleurs des cas de dopage assez forts qui arrivent. Dominique me dit, écoute, voilà, il faut que je te parle, je voulais te dire, tu ne seras jamais championne olympique.
Mais je lui dis, mais... On est juste avant 84, donc
oui, on est
vous
6 mois
bien
avant.
Cette émission, on est 6 mois avant, et après tu prends la 4ème, voilà. Place. Ouais.
Et je lui dis, mais ça va pas, qu'est-ce qui t'arrive? Enfin, je lui dis peut-être pas sur ce ton-là, parce que j'étais une petite, mais ça va pas, mais pourquoi tu me dis ça? Et il me dit, non, tu seras jamais championne olympique, c'est même pas sûr que tu fasses un jour plus de 2 mètres, en tout cas tu feras pas 2 mètres 5, 2 mètres 6, comme font les filles de l'Est. Ça t'arrivera une fois de temps en temps d'arriver à les battre, parce qu'encore une fois, sur un malentendu, c'est un sport qui est technique, donc tu y arriveras, mais il y a quelque chose qui t'empêchera de battre ces filles-là, c'est qu'aujourd'hui, il y a des produits qui permettent d'être plus fort à l'entraînement, qui permettent d'être plus rapide, ça s'appelle le dopage, et elles seront toujours devant toi. Et moi, je lui dis, mais qu'est-ce que c'est? Ça va pas, t'es complètement, t'es à côté de tes pompes. Mais il va plus loin. Il me dit, voilà, je te donne une semaine pour réfléchir. Alors, je vais réfléchir à quoi? Il me dit, écoute, soit on se dope, enfin tu te dopes, et t'as peut-être une chance de faire plus de 2 mètres un jour. Soit on continue comme ça, mais je veux plus jamais entendre parler de dopage et jamais dans ta bouche t'entendre dire que tu n'as pas gagné parce que certaines filles ont triché. Et donc, on s'engueule un peu ce jour-là. Je me dis, il est complètement... Il y a quelque chose qui ne va pas. Je rentre à la maison, je suis bouleversée. J'en parle à ma mère. Je dis, mais ça ne va pas. Mais qu'est-ce qu'il m'a dit? Mais pourquoi il veut que je me dope? Je ne comprends rien. Et au bout de quelques jours, je ne sais même pas s'il se passe une semaine, je ne crois pas. Je reviens le voir et je lui dis, il me dit, t'as pris ta décision? Je dis, oui, évidemment que j'ai pris ma décision. Je ne comprends même pas ce que tu m'as dit. Pas question de tricher. On continue comme ça. Et il me dit, OK, très bien. Il me dit, mais tu te rappelles ce que je t'ai dit? Si jamais un jour je t'entends dire que tu n'as pas réussi quelque chose parce que les autres étaient dopés, j'arrête de t'entraîner.
Dominique
et on
n'en
parle
Bio,
jamais.
Dominique Bio, sur cette histoire justement et cette discussion sur le dopage.
Ce que j'ai dû lui dire, c'est si tu veux te doper, c'est ton problème et pas le mien, tu es majeur. Bon, un étudiant en médecine qui se prend des amphétamines pour réussir à l'internat, personne ne va le contrôler. Donc c'est son problème, pas le mien. Moi, ça ne me plaît pas. Mais si tu fais ça, tu vas t'entraîner avec quelqu'un d'autre que moi. La seule chose qui m'aurait intéressé, c'est de savoir par le dopage ou le doping combien de centimètres ou de dixièmes on peut espérer gagner. Ça veut dire comparer la perf de quelqu'un qui est clean avec la perf de quelqu'un qui est dopé et se dire, ben intrinsèquement, j'ai gagné.
Ça, c'est vrai.
Voilà,
ça,
c'est la seule chose, mais ça, c'est pas possible.
Je me souviens très bien qu'il m'a dit ça aussi, et c'est pour ça d'ailleurs qu'il m'avait fait peur, parce que je dis, mais il y pense sérieusement, c'est que Domi, c'était un type, je sais pas, c'est un martien, Dominique. C'est un agrégé de mathématiques, il modélisait mes décollages, les angles, les machins. Des fois, je comprenais rien à ce qu'il me racontait. Et à l'époque, on avait une piste en cendrée. Il était capable de me faire des équations pour me montrer comment il fallait que je décolle pour avoir l'angle optimal. Je le regardais avec des yeux comme ça. Il finissait par me dire, écoute, tu t'élèves le plus haut possible, tu essayes d'éviter la barre en retombant et ça va le faire. Et là, ça marchait. Et en fait, c'est vrai que son côté agrégé de mathématiques, il me disait souvent que l'une de ses frustrations, peut-être, ce serait de savoir si j'étais aussi forte que certaines filles qui étaient devant moi.
On peut répondre à cette question. Est-ce que tu peux savoir, en étant dopé, combien tu aurais sauté?
Non. Non seulement je ne peux pas y répondre, mais ça ne m'intéresse absolument pas. Parce que, encore une fois, moi, je suis sur une épreuve technique. Donc, même sur une épreuve technique, moi, j'en ai bavé des ronds de chapeau pour être au poids. Si je faisais, je me souviens, des fois, j'arrivais avec ma boîte de protéines et ma pomme, et je tombais dans les pommes, c'est le cas de le dire, aux entraînements. Et j'arrivais tout juste à descendre à 64 kilos. Les meilleures mondiales, elles faisaient 56, 57 kilos pour la même taille que moi. Je les voyais en début de saison, elles étaient un petit peu enveloppées. Deux mois après, on voyait, c'était pratiquement un écorché. On voyait les muscles, les tendons, etc. Et je me disais, mais comment elles font? Comment elles font? Je n'y arrive pas. Et pourtant, j'avais que 10% de graisse. Donc, il y avait ça, il y a la force. Bon, j'ai vu notamment une de mes amies slovènes qui après a été prise pour dopage, elle, pour le coup, qui faisait 58 kilos et 1m78, qui portait 300 kilos en musculation, qui était capable de faire des quarts de squat à 300 kilos. C'est-à-dire que quand je la regardais faire, j'avais l'impression que si elle faisait un pas de travers, elle allait se casser comme une brindille. C'était des trucs... Stefka Kostadinova était capable de sauter 4 fois par semaine. Moi, si je sautais 2 fois par semaine, mes tendons criaient tellement que je ne pouvais plus.
Mais alors, ce pacte avec Dominique Biot, il va être rompu quelques mois plus tard, parce qu'aux Jeux Olympiques 84, on en a parlé il y a quelques instants, l'Américaine qui termine troisième, t'as de gros soupçons, et tu le dis, et tu te plains du dopage.
J'ai un mot quand je rentre à Montpellier, et effectivement, je lui dis, c'est pas juste, elle était chargée. Et là, Dominique me dit, tu te rappelles ce que je t'ai dit il y a 6 mois, ben, j'arrête de t'entraîner. Et il a tenu, je ne sais pas très longtemps, mais c'était un choc pour moi. Et j'ai compris après. J'ai compris après toute cette discussion qu'on avait eue, dont il ne semble pas très bien se souvenir. Mais j'ai compris après, il m'a appris la plus grande leçon de ma vie, c'est-à-dire ne regrette rien. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, s'il y a des gens qui trichent, toi, ton chemin, tu l'as fait. Il a parlé tout à l'heure des étudiants en médecine, de certaines personnes qui peuvent prendre des produits pour passer des examens, de certains qui vont tricher aux examens. C'est pas mon parcours. Moi, je connais mon parcours. Je me souviens même qu'il m'avait dit quelque chose qui était encore plus dur. Il m'avait dit, il faudra que tu te dises que quand tu vas arrêter ta carrière, non seulement on te demandera si tu t'es dopé, mais même des gens de ton entourage, même des gens de ta famille te poseront la question. Et quand tu leur diras non, ils ne te croiront pas. Il faut tenir face à tout ça. Et en fait, je n'ai aucun regret. Aucun. Mais vraiment aucun. Les regrets que j'ai sont liés à mes performances ou mes contre-performances, ou mes petites défaillances.
Pas sur le dopage, savoir si tu aurais dû te doper ou pas. Monique Evangépé, ta sœur, championne d'Europe du 100 mètres haies au début des années 90, sur le dopage.
On ne pouvait pas s'en plaindre, puisque de toute façon, d'une part, ça aurait été mal vu, d'autre part, c'était mal vu, mal reçu, parce que quand on s'en plaint, c'est qu'on est perdant, donc on se cherche des excuses, et puis on n'a pas les preuves tant que les filles se font pas choper. Donc, soit on se tait et on continue son chemin, et puis à un moment donné, quand on n'y arrive plus, ben, c'est plus drôle de courir derrière des barbus et on arrête.
Oui, elle a souffert beaucoup plus que moi. Je pense qu'elle en a, elle pour le coup, peut avoir des regrets parce qu'en plus, enfin, à plusieurs reprises, elle termine quatrième ou deuxième, troisième de deux filles qui ont toutes été prises pour dopage, non pas une fois, mais plusieurs fois. Moi aussi, dans ma carrière, il y en a plusieurs qui ont été prises pour dopage et il y en a d'autres pour lesquelles j'en ai eu la preuve, clairement parce qu'elles me l'ont dit. J'ai été amie, vraiment amie avec certaines. Moi, j'avais une marotte. J'ai toujours adoré les langues étrangères. J'ai toujours considéré que si vous êtes amie avec quelqu'un, vous faites l'effort d'aller vers lui et vers sa culture. Donc, dès que j'étais amie avec quelqu'un, j'essayais d'apprendre sa langue. Donc, du coup, je me suis mis à faire du serbo-croate, du russe, du bulgare, du polonais, de l'italien, de l'espagnol, de l'allemand, etc. Et parmi mes amies, j'avais certaines filles que je considère comme étant des victimes du dopage, en fait. C'est-à-dire que c'est la raison pour laquelle, moi, je n'ai jamais regretté. Il y avait un dopage d'État dans certains pays, très clairement. Très clairement, les pays de l'Est, mais aussi Cuba, d'autres pays comme ça, les Chinoises, etc. Dans ces pays-là, on ne leur laissait pas le choix. C'est-à-dire que soit vous rentriez dans un certain parcours dopant et on mettait votre famille à l'abri et vous alliez avoir la maison et votre mère allait avoir le boulot, etc. Soit vous refusiez et vous sortez de l'équation. Moi, j'ai vu certaines de mes amies tomber enceintes en même temps que moi. S'entraîner très dur, être entraînée très dur, perdre le bébé à 5 mois ou 6 mois. Parce qu'on les forçait et parce que pendant toute cette période-là, elles subissaient des traitements dopants qui étaient ignobles. Moi, mon enfant, il est né, il a été au bout. L'une de ses amies, d'ailleurs, qui l'est toujours, a même donné un prénom français à sa fille après parce que, et elle me disait, tu as une chance incroyable. Et lorsqu'elle est retombée enceinte, elle a tout simplement bandé son ventre, elle l'a caché jusqu'à la naissance. Quand la petite aînée, on lui a pris cet enfant et on lui a dit « tu la reverras quand tu seras à nouveau en équipe nationale » et quelques temps après, elle était parmi les meilleures mondiales. Donc ces gens-là, je les plains en fait et je ne vais jamais les outer, je ne vais pas donner leur nom, sauf si elles m'en donnent la permission un jour, ce qui n'est pas exclu d'ailleurs, mais pour moi, ce sont des victimes. Par contre, je n'ai aucune pitié pour ceux qui aujourd'hui sont dans un système de gain d'argent, de mensonges, les affaires, comme on a pu voir récemment en équipe de France, me dégoûtent, vraiment.
Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec Marie Zévangépé pour se rappeler sa carrière.
Arizona, yeah, Wildcat.
Arizona, septembre 1984, juste après les Jeux Olympiques de Los Angeles, tu décides de tenter l'aventure américaine, partir t'entraîner avec Bob Meyers, mais tu laisses Dominique Biot.
Ouais, c'était pas facile, ni pour Domi, ni pour moi d'ailleurs, je crois. Et je laisse ma mère aussi, parce que je laisse Montpellier, enfin voilà, c'est mon sud. Je n'ai jamais été à l'INSEP parce qu'on n'avait pas les moyens pour que j'aille à l'INSEP et que ma mère avait dit elle bougera pas de là tant qu'elle aura pas son bac, etc. Et là, tout d'un coup, j'ai des offres qui arrivent des États-Unis, de tout un tas d'universités. Et donc, à un moment donné, je vais voir ma mère et je dis maman, mais là, c'est différent. On me paye tout, j'ai une bourse, j'ai tout. C'est-à-dire qu'on me paye le voyage, on me paye les études, je vais pouvoir enfin faire des études de journalisme. À l'époque, il n'y avait pas d'école de journalisme à Montpellier. Je n'arrivais pas à passer mes examens parce que les partiels tombaient systématiquement au moment des compétitions. Donc là, tout d'un coup, on me dit, mais tu te rends compte, tu vas aller dans un endroit où ton boulot, c'est de t'entraîner et entre les entraînements, tu vas avoir des cours. Donc évidemment, je pars.
La séparation,
je veux ce rêve.
La séparation avec Dominique Biot, ton entraîneur.
Alors, ça se passe bien. Le seul problème qu'il y a eu au départ, c'est que Maryse voulait que je lui fasse un plan d'entraînement. Et j'ai vu, on s'est réellement frité. Moi, ma sensation, c'était elle va aux États-Unis pour s'entraîner avec un autre coach qui a les qualités certainement adéquates pour l'entraîner, mais elle ne va pas aller s'entraîner avec un autre coach, avec un plan d'entraînement que je lui aurais fait. Alors finalement, comme elle a beaucoup insisté, j'en ai fait un. Et je pense qu'elle l'a... Non, elle ne l'a pas suivi, elle a fait ce que Bob Meyers lui disait, et ça a été très bien comme ça.
Je ne m'en souviens pas, mais j'étais têtue quand même. Hein. Mais ça ne m'étonne pas, parce que dans un premier temps, quand je suis arrivée là-bas, j'étais un peu surprise. Là-bas, on est beaucoup moins dans la technique, dans le détail technique, et c'était en fait des compétitions à tous les entraînements. On montait la barre, you can do it. Pareil, le matin, musculation tous les matins, on essayait de faire des records de poids. Et je me souviens une fois, j'avais dit, coach, pourquoi il faut que je fasse des biceps? Je fais du son hauteur. Et il me répondait, you can do it. C'était un truc de dingue, donc j'ai fait des biceps aussi.
Il faut préciser quelque chose, tu ne pars pas seule.
Je pars pas seule, je pars avec mon chéri de l'époque, qui s'appelle Aldo Canti, qui était le recordman de France du 400 mètres. Domi, c'était pas un entraîneur pour moi, c'était un père. Hein. J'ai grandi sans père et mon entraîneur, c'était mon père en fait. Et donc du coup, je me voyais pas partir toute seule aux États-Unis, donc je pars avec mon chéri.
Alors lui est blanc.
Oui. Complètement. Il est roux, il est pâle,
Tu es noir. Comment c'est à cette époque aux États-Unis?
Alors, on n'est pas en Géorgie, donc ça va relativement bien, mais malgré tout, il y a des choses qui ne se font pas trop. L'Arizona est un État qui est très mixte, où il y a énormément de Latinos, beaucoup de Mexicains, il y a des Noirs, il y a des Blancs. Mais par contre, des Noirs avec des Blancs, et j'en ai pas vu, en tout cas pendant le temps où j'étais là-bas. Et on me fait comprendre que c'est un peu compliqué que je sois sur le campus avec mon chéri. Donc du coup, on nous trouve un petit appartement dans une rue qui s'appelait Arroyo Chico. Et dans cette petite rue, il y avait des condoms, enfin des appartements où il y avait, au-dessus de nous, il y avait une Irlandaise, il y avait un Mexicain, il y avait un Libanais, il y avait le couple de Français. Et donc, ça devient l'auberge espagnole. Et on est comme ça en Arizona, mais pas sur le campus de l'université de Tucson.
Et nous avons retrouvé Aldo Canti, évidemment, qui nous parle de cette période.
C'est vrai que c'était un petit peu atypique. Moi, personnellement, j'avais pas vraiment ressenti la chose comme ça. Hein. Je pense qu'on était un peu atypique, clairement. Hein. On venait, oui, effectivement, un blanc, une noire de France. Moi, en tant que coureur de 400 mètres, on attendait un noir, en fait. Et il y a les athlètes qui avaient été surpris de voir un blanc débarquer, parce que il y a souvent les coureurs de 400 mètres là-bas, c'est des noirs. Donc c'est vrai qu'on était effectivement un couple atypique, mais on était un couple atypique aussi en France, hein, pas qu'aux États-Unis.
Hein. Ah, c'est marrant qu'ils disent ça. Je l'ai moins ressenti pour le coup en France. Et c'est marrant qu'il ne l'ait pas ressenti là-bas, mais peut-être parce qu'on était justement à Rio Chico, où là-bas c'était assez particulier. Mais enfin, moi, clairement, je ne lui ai pas dit parce que il m'en voudra pas si je le dis, mais il le sait, tout le monde le sait. Il était ultra jaloux, Aldo, mais ultra jaloux. Et donc, je ne lui disais pas tout ce qui se passait. Mais le nombre de fois où les basketteurs américains ou les footballeurs américains, donc effectivement, majoritairement, et je dirais même 100% noirs à l'époque, venaient me voir en me disant: mais qu'est-ce que tu fous avec un blanc? Mais regarde, on est tellement mieux bâti, mais tu vois, tu serais pas mieux avec nous. Mais c'était non-stop, quoi. Non-stop.
Ouais. Bon, il vient de l'apprendre et il vient d'arracher sa télévision et son poste de radio.
Oh, hein. On n'en est plus là.
Alors, les débuts sont très durs, c'est tout le temps la compétition, c'est assez compliqué, mais tu deviens quand même vice-championne universitaire américaine à Austin en mai 1985. Mais tu vas quand même revenir en France au bout d'un an.
Ouais. Plus grosse connerie que j'ai faite, je pense. C'était vraiment, vraiment une erreur. Il s'est passé que les premiers mois étaient très, très, très difficiles. Effectivement, je m'entraînais deux fois par jour avec de la muscu tous les jours. J'avais pris 7 kilos. On me faisait faire du lancer du poids, du 100 mètres V, du 100 en longueur. Enfin, j'avais l'impression que j'allais faire tout. D'ailleurs, j'ai toujours le record de l'université en heptathlon plus de 30 ans après, ce qui est assez hallucinant. Et du coup, je suis épuisée, et je suis tellement épuisée que je mets plus un pied devant l'autre au 100 hauteur. Donc, je saute, j'arrive avec un record 1m95, et deux mois après, je saute péniblement 1m75. Et là-bas, ça ne se voit pas trop parce que les Américains n'ont pas du tout la même mentalité que les Français. C'est-à-dire qu'ils se fichent que vous sautiez 1m75 si vous gagnez. Et comme j'étais sur presque tous les podiums des compétitions qu'on faisait et que souvent je gagnais, j'avais toujours le good job. Mais moi, je me sentais nulle, mais vraiment nulle. Et au mois de mars, l'équipe de France m'appelle pour faire les championnats d'Europe. Et c'est la seule fois de ma vie que ces championnats d'Europe, je fais dernière. Moi qui, tous les championnats d'Europe, ai été finaliste et trois fois médaillé, cette fois-ci, je fais dernière. Et là, je repars aux États-Unis, je me dis c'est une cata, j'y arrive pas. Et il se passe quelque chose, c'est que Aldo a 24 ans au mois de mars et qu'on lui apprend à ce moment-là qu'il perd son éligibilité parce qu'il arrive à la limite d'âge prévu pour l'université, donc il doit rentrer en France.
Il ne peut pas rester aux États-Unis, il va nous le raconter, mais lui ne se souvient pas que tu vas rentrer à cause de lui quelque part.
J'avais été uneligible, on appelait ça. Donc, j'étais plus éligible parce que j'avais 24 ans. Et à 24 ans, on n'est plus éligible pour faire partie de l'équipe, pour avoir une bourse et pour faire l'équipe de l'université. Donc, je sais que moi, je devais rentrer. Donc, peut-être que, effectivement, j'ai été peut-être un petit peu le déclencheur du départ.
Ouais, tu t'en souviens pas, moi je m'en souviens. non, si, on en a beaucoup parlé, mais bon, ça remonte à il y a 30 ans. Hein, donc, il y avait ça, et il y avait aussi le fait que la seule chose qu'on ne vous payait pas quand vous partez, et c'est encore le cas aujourd'hui, on ne vous payait pas le voyage. Donc, c'était la Fédération Française d'Athlétisme qui m'avait payé le voyage. Et la Fédération Française voulait que je rentre, parce qu'elle trouvait que mes résultats étaient catastrophiques. Donc, il y a eu tout ça ensemble. Et aussi, je ne voulais pas laisser mon chéri. Donc, je décide de rentrer, ce qui est une énorme connerie parce que je pense sincèrement que le travail aux États-Unis, il faut le digérer, tout simplement. Et que ça ne se fait pas en un an. Et aujourd'hui, d'ailleurs, même d'ailleurs, quand j'entraîne un nouvel athlète, je lui dis toujours, j'espère que tu as conscience qu'il faut 2 à 3 ans pour perfer quand on change de groupe, de style, d'entraîneur, etc. Et je rentre en France, je suis défoncée. On faisait des compétitions non-stop. Je ne sais pas combien, j'ai dû faire plus de 60 000 km en 6 mois aux États-Unis. Et je rentre en fait et je dors pendant une semaine. Et au bout d'une semaine, je bats le record de France et je fais 1m96. Voilà.
Tu vas revenir t'entraîner avec Dominique Biot, il accepte ?
Oui, il accepte. Franchement, je ne me souviens plus comment ça s'est passé.
Et alors, si toi, tu ne t'en souviens pas, lui s'en souvient.
Le seul problème que j'ai eu à cette époque-là, c'est qu'elle a fait son séjour en 2 fois. C'est-à-dire, elle est partie une première fois, puis les vacances de la Noël aux États-Unis sont assez longues. Elle est rentrée pendant 3 semaines ou 1 mois, et puis elle est repartie. Okay, c'était tout en restant à cette université, c'était clair. Et en rentrée, elle m'a dit, ça y est, Domi, c'est super, j'ai appris d'être à l'heure et tout. Premier entraînement, elle est arrivée avec 1 heure de retard. Bon, donc moi, j'avais foutu le camp, et voilà.
Ah ça, tu t'en souviens plus hein.
Pas du tout.
Mais alors, en même temps, le retard, c'est quand même une marque de fabrique de Marie-Sévan-Jeppé.
Alors, pas aux États-Unis. Parce que je me serais fait virer immédiatement. Et pas depuis que j'ai mon scooter, d'ailleurs. Mais enfin, oui, c'est une marque de fabrique. J'ai coutume de dire que la seule fois de ma vie où je ne suis pas arrivée en retard, c'est à ma naissance, puisque je suis née avec 2 mois d'avance. Donc, voilà, c'est le seul moment. Mais c'est marrant, je ne m'en souviens pas du tout. Vraiment. Parce que Domi a toujours été tellement gentil avec moi. J'imagine même pas qu'il se barre de l'entraînement. Mais s'il le dit, c'est que c'est sûrement vrai. Hein.
Un nouveau papier avec toi dans la boîte à souvenirs. Marie-Sévan-Jeppé sur RMC.
Séoul,
forcément. La
deuxième Jeux Olympiques. Ouais.
On est donc en 1988. Tu n'arrives pas en forme olympique pour les Jeux Olympiques. Pardon pour ce mauvais jeu de mots. Tu as connu des blessures. Tu reviens de loin. Tu n'arrives pas à passer la barre des 1m90. D'ailleurs, tu vas te qualifier pour les Jeux Olympiques à l'arrache. Le dernier jour de la période de qualification, c'est un concours extraordinaire.
Oui.
Lors des championnats de France à Tours, où tu vas réaliser 1m95. Et ton entraîneur de l'époque s'appelle Christian Charbonnel, et il s'en souvient.
Les minima, c'était 1m95. Et elle faisait un blocage. Elle était incapable de sauter au-dessus de 1m90. Et moi, je ne comprenais pas parce qu'il n'y avait aucune raison, à part éventuellement la tête, il n'y avait aucune raison pour que ça ne marche pas. L'échéance, c'était les championnats de France à Tours. Les minima, c'était 1,95. Pour l'anecdote, à l'époque, j'avais la moustache. Et j'ai dit, écoute, si tu fais 1,95 et que tu te qualifies pour les Jeux, je la rase. Et donc, à Tours, elle fait un super championnat de France. Elle saute 1,95 et elle se qualifie pour les Jeux. Et moi, le lundi matin, j'arrive chez elle et elle me reconnaît à peine, elle éclate de rire parce que j'avais rasé ma moustache.
Qui était moche sans moustache.
Et depuis, j'ai jamais laissé repousser.
Ouais, ça y allait pas à l'époque. Je dis, oh putain, c'est quoi ça? Mais effectivement, le dernier jour. Non, mais j'étais quand même une compétitrice. Hein, ouais, j'ai toujours
une
su élever.
De concours, quoi, hein.
J'ai élevé mon niveau en compétition. On m'a souvent demandé si j'avais déjà passé 2 mètres à l'entraînement. Le maximum que j'ai sauté à l'entraînement, ça doit être 1,90. Et c'était vraiment au taquet sur une année où je valais 2 mètres. Quoi. Donc, non, c'était vraiment la compète. Donc, on arrive à Séoul. On s'est mariés 10 jours avant. En tant que lune de miel, bah, c'est pas top parce que, évidemment, mon chéri n'a pas le droit de rentrer au village olympique. Donc, moi, je suis au village olympique. Lui, bah, il passe sa lune de miel avec mon entraîneur à dormir dans le même lit parce qu'ils ont trouvé juste un petit appartement coréen avec les lits coréens, donc des lits de 110 de large et de 170 de longueur. Donc, c'était pas triste non plus. Ma mère débarque aussi aux Jeux Olympiques. Première fois qu'elle prend l'avion et qu'elle quitte Montpellier, elle arrive en Corée avec son anglais à couper au couteau, avec son accent du midi, c'était extraordinaire. Et oui, c'était un peu lourd pour moi parce que c'était 4 ans après. J'étais plus du tout la jeune fille innocente de 19 ans.
Il n'y a plus la même magie.
Non, il n'y a pas la même magie. J'ai conscience, en fait, c'est terrible. Hein. J'ai conscience. Je me mets cette pression-là de conscience d'un devoir à accomplir, en fait. Pour ma mère, pour mon entraîneur, pour mon mari. Je pense à tout le monde sauf moi. Et donc, en fait, je me mets une trop grosse pression.
La finale et tu termineras 10e.
Ah oui, non, c'est pour moi, le bilan était catastrophique.
Et oui, mais on l'a déjà dit, tu n'as pas un bon regard sur ta carrière.
Tout à fait.
Un nouveau papier dans la boîte à souvenirs avec Marie-Sévan-Jeppé sur RMC.
Ah, Ulrike Meyfarth, on revient sur Ulrike.
Ulrike Meifert, on est en 1984, juste avant les Jeux Olympiques de Los Angeles. Tu vas disputer les championnats d'Europe en salle senior à Göteborg, juste avant donc ces Jeux Olympiques. Et là, tu te retrouves face à l'idole, championne olympique à 16 ans, en 1976 à Munich. Comment se passe le concours? Parce que tu vas exploser déjà ton record. Tu vas
alors,
être incroyable.
Encore effectivement une compétition où je me sentais sûre de moi, parce que non, moi au contraire, je doutais rarement en compétition, c'est avant. Mais à partir du moment où je passais en chambre d'appel, j'étais une autre, j'étais vraiment une guerrière, je pouvais même être méchante, un peu dans ma bulle complètement. Et j'arrive dans ces championnats, l'année d'avant j'ai eu une médaille, donc j'estime que j'ai un statut, j'étais médaillée de bronze la saison précédente au championnat d'Europe. J'ai tout choisi, je me suis mis du bleu dans les cheveux, j'ai fait un brushing, enfin j'ai Jean-Jacques Goldman dans mon Walkman, parce que j'écoutais toujours Jean-Jacques Goldman pour aller plus haut, évidemment, le titre de la chanson. Donc tout se passait très bien, jusqu'à 1m95, je bats donc le record de France de 3 cm, je fais 1m95, j'avais battu le record de France 3 fois les 3 semaines précédentes, et puis ben, toujours pareil, 1m98, il y a Ulrike Meifert, et là Ulrike Meifert, moi je ne peux pas la battre. Je ne peux pas la battre parce que contrairement...
Tu as des posters dans ta chambre, tu ne peux pas la battre.
J'ai des posters, c'est mon idole. C'est-à-dire que j'ai lu son histoire je ne sais pas combien de fois. Elle a une trentaine d'années. Moi, je suis une merdeuse par rapport à elle. Elle a une expérience, une aura en plus. Elle est magnifique, cette femme. Elle est grande, elle mesure 1m88. Elle est tout ce que j'admire, en fait. Et je crois que je perds à cause de ça. Parce que je l'admirais beaucoup trop.
D'ailleurs, ton entraîneur va te le reprocher.
Oui.
Il va te dire...
Exactement, il me dit deux choses. Il me dit que j'ai perdu parce que je l'admire, mais il me dit aussi que j'ai sûrement perdu les Jeux Olympiques là. Et il me le dit tout de suite, ça c'est Dominique. Hein.
elle le sait, Ulrike Meifert, que tu es son idole?
Je sais pas, je pense qu'elle sait que j'ai de l'affection pour elle, on est toujours un petit peu en relation de loin, mais je sais pas si j'ai osé lui dire, ne sais pas.
Bah nous en tout cas on lui a demandé.
Je n'ai jamais su qu'elle avait autant d'admiration pour moi. Peut-être qu'avec mes résultats, j'ai été un modèle pour quelques sauteuses en hauteur. Elle ne me l'a dit qu'en 2012, à Londres. J'étais très surprise.
Je me souviens même pas lui avoir dit. C'est... Ah oui, c'était quelqu'un d'exceptionnel, vraiment. Et ça reste encore... Ah, ça me touche d'entendre ça, parce que pour moi, c'est une immense dame. Être championne olympique deux fois à 16 ans et à 32 ans, c'est 30 ans plutôt, donc c'est quelque chose d'incroyable, en fait. Et puis, championne olympique à 16 ans à Munich, après les attentats, après... elle symbolise énormément pour moi, oui.
RMC, la boîte à souvenirs.
La sortie de boîte.
La boîte à souvenirs avec Marie Zévan GP sur RMC. Nous allons maintenant sortir de la boîte. Et quand on sort de la boîte, eh bien, on peut passer en mode interrogatoire. Est-ce que tu es prête, Marie?
Ok, on y va.
Le plus beau sautoir du monde?
Le Colisée. Le Colisée, vraiment.
À Los Angeles.
Ah oui, voilà. Tout. La piste, la couleur de la piste, le sautoir bleu turquoise, le stade blanc, c'était extraordinaire. Avec les zeppelins là, qui passaient au-dessus, c'était un truc de fou.
Le livre que tu rêves d'écrire?
Alors, je pense que j'aurais aimé écrire une saga historique comme les livres de Robert Merle, que j'adorais lire. Mon grand-père, je lui en ai piqué plein, Paris, ma bonne ville, En ouvertes années, qui sont... D'ailleurs, à une période, j'étais tellement tarée de Robert Merle que je parlais en vieux français, en vieux François, comme je disais tout le temps. J'adorerais être capable d'écrire un livre historique.
Ta plus grosse honte dans un stade?
Championnat d'Europe junior à Utrecht. Il se passe deux choses. Je suis indisposée ce jour-là. Et oui, ça arrive. Et donc, j'ai un accident. Et à l'époque, on portait des shorts en espèce de moumoute blanche, catastrophique. Donc, il faut que je me change. Et je mets un short, le seul que j'avais sous la main, un Nike orange. Donc, je manque de me faire disqualifier. Et ensuite, le deuxième jour, juste avant le lancer du javelot, donc, comme on l'a dit, je bats toutes mes meilleures perfs. Je bats mon record au 100 mètres et au lancer du poids, en hauteur, au 200. Ce qui fait que je suis première à l'issue de la première journée, alors que normalement, j'étais dans les 20 meilleures européennes. Donc, les filles ne comprennent pas. Et avant le lancer du javelot, elles sont toutes alignées derrière moi, et elles regardent, elles sont inquiètes, elles attendent le lancer du javelot qui risque de déterminer si je vais être championne d'Europe ou pas. Il y a des filles de l'Est, et on a cette photo-là, et au moment où je vais lancer, il y a une guêpe qui arrive et qui rentre dans mon short, et qui me pique le cul. Et donc, je bats mon record au lancer du javelot. Mais après, il y avait les filles qui me couraient derrière et qui me soufflaient sur les fesses parce que je m'étais fait piquer au cul par une abeille, une guêpe ou une abeille.
Ta pire adversaire ?
Tamara Bykova. C'était une vacherie. Je la détestais. Tamara Bykova qui a battu le record du monde du 100 hauteurs à plusieurs reprises. Je suis sa vassale, je suis vice-championne, je suis troisième des championnats du monde, universitaire derrière elle. C'était une saleté qui était capable, donc elle claquait des doigts pour vous faire bouger. Si jamais vous n'alliez pas assez vite, elle donnait des coups de pied dans votre sac. Elle enlevait vos marques aussi avant de sauter, ce qui fait qu'au moment où tu vas sauter, ben, t'as plus de marques et tu peux plus sauter. C'était vraiment une vacherie.
Ton plus beau saut en sensation ?
Je crois sincèrement, j'ai battu un record de France avec 1m91 en soi, ça paye pas de mine, à Nîmes, sur un petit stade. Et ce jour-là, j'ai mis la barre à 2 mètres et je le loupe de très très peu avec un saut à peu près identique à celui que j'avais fait au jeu de Los Angeles, c'est-à-dire un boulevard au-dessus et je l'accroche avec les talons parce que je relâche un peu. Et ce jour-là, effectivement, je me suis sentie aussi forte que les filles que je voulais battre.
Ton pire saut ?
Ah ben, ces fameux championnats d'Europe alors que j'étais universitaire américaine et que je viens faire ces championnats d'Europe et que je me cague et que je fais dernière.
Ta plus grosse cuite, Maryse ?
Alors, ma plus grosse cuite, c'est ma dernière médaille des championnats d'Europe en salle en 89 à La Haye. Ce jour-là, on avait fait un record de médailles et on avait un de nos athlètes qui s'appelait Aubert Tréguilly, qui était normand et qui nous avait ramené un calva de sa grand-mère à 65 degrés. Et on est tous passés au calva de sa grand-mère et je crois que je n'ai jamais vu une cuite collective aussi mémorable avec des athlètes qui passaient l'aspirateur dans les couloirs à 3h du matin, avec Jean-Charles Jiquel, sauteur en hauteur qui mesurait plus de 2 mètres, qui avait jamais réussi à ouvrir la porte de sa chambre et qu'on a retrouvé endormi le front contre sa porte avec la clé dans la serrure. Et donc on a ouvert, on l'a poussé, il est tombé raide et on l'a couché comme ça. Avec l'entraîneur national du saut en hauteur qui était aussi torché, qui me déclarait sa flamme alors qu'il y avait mon mari à côté, qu'on a dû coucher avec mon mari et ensuite mon mari qui m'a couché aussi parce que j'étais pas en très très bon état.
Sympa la soirée.
Donc oui, c'était une soirée mémorable. Je me rappelle aussi de l'ascenseur qui arrêtait pas de s'ouvrir. À chaque fois il y avait des chaises, de plus en plus de chaises. C'était les demi-fondeurs qui s'amusaient à empiler le mobilier dans le truc. C'était une soirée dingue.
La dernière fois que tu as pleuré, Maryse ?
Maintenant tout de suite là, dans l'émission. Dans l'émission.
Et sinon, la vraie dernière fois ?
Cet été, quand Maya s'est qualifiée en finale du 400 mètres haies après cette sortie de Covid où on s'est entraîné comme des malades, ça a été très très dur. On s'est entraîné sur la route, sur les bords de Marne, devant chez nous, à faire des haies sur du goudron pendant des semaines. Et puis cet été, elle a pris la décision de s'entraîner pendant tout l'été, de pas prendre de vacances, du coup moi non plus. Et on s'est entraîné très dur. J'ai été très dur avec elle. Je l'ai beaucoup poussée. Je lui ai dit que j'allais pas l'emmener aux France, qu'elle avait pas le niveau, etc. Et aux France, elle bat sa meilleure perf de la saison en série, puis en finale, et elle finit quatrième des championnats de France.
Maintenant, l'interrogatoire Maryse Evangépé va être mené par tes proches. Première question, François Pesenti.
Salut Maryse, c'est François, j'espère que tu vas bien. Je voulais savoir si dans ton emploi du temps de mère de famille et dans ta vie qui est extrêmement riche, tu avais trouvé l'organisation et le moyen, désormais, d'être toujours à l'heure à la radio, y compris le mercredi, y compris quand il y a des entraînements.
La vacherie.
Ça, c'est pas cool. Oui, François, je te rassure, j'ai acheté un scooter il y a 2 ans. Donc, je serre un peu les fesses parce que je ne suis pas encore très, très à l'aise. Mais depuis que j'ai ce scooter, sauf aujourd'hui où on m'a crevé les pneus du scooter, je suis à l'heure.
Un message maintenant de ton entraîneur historique, Dominique Biot.
Je te fais un gros bisou, Maryse. J'espère que tu continueras à atteler comme tu as toujours fait, avec la même passion, la même volonté et la même réussite.
Ouais, moi aussi, je t'embrasse, Domi. Domi, qui attend qu'une chose, c'est que je prenne ma retraite, que je descende à Montpellier. Lui, maintenant, il est président du comité d'athlétisme de l'Hérault et il entraîne à Saint-Mathieu-de-Tréviers et il veut que je vienne, évidemment, entraîner. Il a toujours voulu que je prenne sa suite et je comprends.
L'une de tes sœurs, Monique, a une petite question.
Maryse, est-ce que tu te rappelles les 3 fois où je t'ai mis une grande claque ?
Oh, saleté. Alors, je me souviens de la troisième, non, la première dans l'avion. J'étais mort de trouille en avion. J'avais très, 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 très peur en avion. Et un jour, je fais une crise de nerfs. On partait au championnat d'Europe en salle et il y a des trous d'air et toute l'équipe de France, des gros trous d'air. Hein. Tout le monde crie et moi, je hurle et je commence à faire une crise. On va mourir, on va mourir, on va mourir. Tout le monde arrive. Le médecin de l'équipe de France arrive. Il voulait me faire une piqûre de magnésium. Et Monique dit non, laisse-moi faire. Elle pousse le médecin et elle me file une baffe, mais monumentale. Elle me dit ça va, t'es calmée. Et elle se barre. Et la deuxième fois, c'était au championnat de France. Un championnat de France où j'y arrivais pas aussi. 1m75, premier essai raté, deuxième essai raté. Je commence à pleurer avant mon troisième essai. Elle est derrière la barrière. Elle pousse tout le monde. Elle me dit laissez-moi faire. Elle m'attrape par le col. Elle m'en colle une énorme. Elle m'a dit vas-y, saute. Et derrière, je fais, je crois, pas le record de France, mais plus d'1m90. Et je bats ma meilleure paire.
Une bonne technique d'avoir Monique dans sa famille. Exactement.
La troisième fois, pardon, il va falloir qu'elle me le dise. Je m'en souviens pas. On va régler nos comptes. Oui. Je l'appellerai tout à l'heure.
Avec grand plaisir, tu vas voir. Une autre question maintenant. Christian Charbonnel, ton entraîneur aux Jeux Olympiques de Séoul en 88.
Bon, bonjour Maryse, j'ai une petite question qui me trotte dans la tête encore depuis un moment. Pourquoi est-ce que tu n'as pas continué encore un petit peu les épreuves combinées? Parce que je pense qu'il y avait encore du potentiel à faire là-dedans. Un petit peu de muscle pour les lancer, ça aurait peut-être été parfait. Salut Maryse.
Alors j'aurais adoré, très sincèrement, mais et puis c'est normal que Christian se pose cette question, parce que c'était un coach de combiné, qu'il était très bon, en plus de tout ce qu'il faisait, parce qu'il était coach de perche aussi. Mais quand j'en avais parlé avec Dominique auparavant, et je savais que j'avais un très mauvais bras. C'est-à-dire que à partir du moment où on a changé le système de points en combiné, mes performances au javelot me disqualifiaient pour une médaille mondiale. Et moi, ce que je voulais, c'était une médaille mondiale. Donc j'aurais été incapable, mon record c'est 36 mètres au javelot, je n'aurais pas été capable d'aller plus loin. J'étais au taquet complet. Ce n'était pas une question de muscu, c'est une question de bras. J'aurais pu être meilleur sur 800 mètres. Ça, c'est vrai. J'aurais pu progresser. J'ai fait 2,24. Je pense que j'aurais pu descendre avec beaucoup de travail. Mais ça ne m'aurait pas permis d'être parmi les meilleurs mondiaux.
Adrien Aiguin de l'équipe du Moscato Show a une question.
Salut Maryse. Quelle est la question que tu n'as jamais osé poser à Vincent Moscato?
Oh, je ne crois pas que je m'interdise quoi que ce soit avec Vincent, honnêtement. Je pense pas, j'ai aucun filtre avec Vincent, franchement, aucun filtre.
Alors une autre question maintenant, c'est l'une de tes filles, Maya.
Je pense que les questions que je veux vraiment savoir, je te les ai déjà posées parce qu'on se parle énormément, mais je sais pas, j'ai envie de savoir quel est ton plus beau souvenir dans la vie. Je sais pas si je peux dire ta plus belle réussite, mais juste ton plus beau souvenir, le truc qui te rend le plus heureuse quand tu penses comme ça.
Oh, il y en a plein. Il y en a plein aujourd'hui. C'est pas lié à ma carrière athlétique du tout. C'est lié à chacun de mes enfants. À chaque fois qu'ils ont réussi quelque chose dans leur parcours, quand Tania était diplômée de l'école Ferrandi, quand Maya cet été est sortie avec son diplôme du centre français du cinéma, quand Mélissa est sortie avec son diplôme de graphiste, c'est des choses comme ça. Je suis capable de chialer sur un match de rugby de mon fils. C'est complètement idiot, mais je suis une vraie mère poule, mais vraiment incroyablement mère poule. Après, à titre personnel, si je m'éloigne un peu de ma criée, je crois que la chose dont j'étais la plus fière, c'est quand le livre sur Jesse Owens est sorti et ensuite quand le livre Révolte est sorti. Quand je les ai vus, quand je les ai tenus dans les mains, ces deux bouquins, je me suis dit là, t'as fait un truc.
Très beau livre hein, d'ailleurs pour les fêtes. Merci. De Noël. Très très beau livre. Ulrike Meifert, ton idole, un petit message.
I hope we will meet again at the Olympics in Paris 2024. I think it's your duty to make a meeting for us then.
Ah oui.
Hope you will remember this in a few years. I say nous voulons nous revoir à Paris en 2024 et rester en bonne santé jusque là.
Oui. Tout à fait. Et bien sûr que je l'attendrai avec un grand plaisir. On va organiser une petite tournée gustative, par exemple. Ça peut être sympathique, ma foi.
Ça peut être sympa pour les Jeux Olympiques avec Ulrike Meifert. Une question maintenant de Vincent Moscato.
Maryse, si c'est à refaire, est-ce que tu choisirais le saut en hauteur? Parce que c'est quand même pas l'épreuve reine de l'athlétisme. C'est un truc de besogneux. Est-ce que tu aurais choisi autre chose?
Ah oui, alors en même temps, j'aurais pas pu faire le 100 mètres, j'étais pas très rapide, j'ai jamais pu faire moins de 12 secondes, donc 12,04, je sais que c'est l'épreuve reine, mais c'était pas possible. Si c'était à refaire, je pense effectivement que je m'obstinerais un peu plus sur les épreuves combinées. Ouais, parce que ça correspondait plus et à mon gabarit et à mon hyperactivité. Voilà, c'est plus divers, c'est plus riche, c'est plus fort en émotions, même si le sang hauteur finalement m'a procuré des émotions que je n'attendais pas.
Un dernier message, ton ex-mari, Marc Maury.
Le message le plus important, c'est qu'elle n'a surtout pas à regretter quoi que ce soit. Elle a fait une carrière extraordinaire. Et donc de dire que l'important, c'est ce qui vient, c'est pas uniquement ce qui a été, mais si elle se retourne un tout petit peu, elle peut être fière de ce qu'elle a fait. Le message plus personnel, c'est qu'elle a fait 4 magnifiques enfants qui sont, à l'heure actuelle, un petit peu rentrés dans la vie. Pour quelques-uns, quelques-unes, les filles, le garçon va y arriver. Et là aussi, elle peut être fière d'elle.
Et j'en suis très, très fière. Mais ouais, Kounifle, t'es marrant aussi, toi, être fière. Enfin, voilà, s'il y a plein de choses que j'ai pas fait, tu le sais très bien. Mais bon, c'est comme ça. C'est vrai que si aujourd'hui, je le dis souvent, hein, j'espère tenir encore un peu, mais si ça devait s'arrêter, si la roue devait s'arrêter de tourner, j'ai pas grand-chose que je n'ai pas réalisé dans ma liste d'enfants. Ça, je crois que c'est de ça dont je suis le plus fière, finalement. En réfléchissant, tu vois, à la fin de l'émission, je me dis, quand je regarde, parce que j'ai gardé tous mes écrits de petite fille, hein, j'ai tout dans une boîte chez moi, et quand je regarde ce que j'écrivais et ce que je voulais devenir et ce que je suis devenue, j'ai pas grand-chose à regretter. Voilà.
Merci beaucoup, Maryse, de t'être confiée dans la boîte à souvenirs. Un grand merci à toute l'équipe qui a travaillé sur cette émission. Pierre Amiche, notre producteur, et notre réalisatrice, Julie Dereau. Maryse, tu as débuté cette émission. Tu vas pouvoir la terminer. C'est à toi, face aux auditeurs.
Oh là là. Au revoir. non, mais je suis absolument ravie d'avoir fait cette émission. C'est troublant, c'est peut-être enrichissant, parce que c'est une période de ma vie où je me pose encore à nouveau des questions... de route, de chemin, de choses comme ça. Et je me dis que, comme ça, sur une fin d'année, à l'approche des fêtes de Noël, sur une année aussi particulière que cette fameuse année Covid, se poser un temps sur son parcours, finalement, c'est tout ce que je vous souhaite à tous, les uns et les autres, les unes et les autres. Posez-vous de temps en temps, aimez-vous immensément. Faites surtout ce que la petite fille ou le petit garçon en vous avait envie de faire. Voilà.
RMC, la boîte à souvenirs.